Messieurs les supérieurs, Monseigneur, Messieurs les abbés, je suis très heureuse une fois de plus d'avoir l'occasion d'évoquer devant vous les grandes figures de l'Église primitive, et nous arrivons là à cette période de rupture qui caractérise les 4e, 5e siècles, où le monde se christianise, où l'Église n'est plus dans la clandestinité, et où justement l'épiscopat va devoir redéfinir son rôle par rapport au monde dans lequel il évolue. Monde en crise, monde en pleine difficulté, monde plein de tentations. Il appartiendra à quelques grandes figures de sainteté d'éviter à l'Église les pièges mondains qui vont se présenter à elle. Alors, dès avant la paix de l'Église, c'est-à-dire avant la promulgation de l'édit de Milan par Constantin en 313, il faut nous souvenir que les évêques catholiques sont déjà devenus les interlocuteurs privilégiés des autorités impériales. Nous en avons un exemple. Ceux d'entre vous qui avaient assisté à ma conférence sur Saint-Cyprien l'an dernier se souviennent, alors que nous sommes entre deux persécutions particulièrement violentes, se souviennent bien que Saint-Cyprien, mais il est vrai que Cyprien appartient à la haute aristocratie, il est vrai que Cyprien fut une des lumières du barreau de Carthage avant sa conversion, mais il n'empêche que Cyprien, alors que nous sommes en pleine période de persécution et que nul n'ignore qu'il est primat d'Afrique, Cyprien sera l'interlocuteur officiel du préfet d'Afrique lorsque des raids bédouins dans les environs de Lambèse, ayant enlevé une partie des populations, Cyprien sacrifiera une grande partie de la fortune de l'Église, mais il est vrai que cette fortune est la sienne puisqu'il l'a donnée à l'Église, pour racheter les captifs chrétiens et païens confondus. L'on reste d'ailleurs absolument étonné de voir les termes dans lesquels le préfet d'Afrique, lorsque 2 ans plus tard il se décidera à envoyer Cyprien au bourreau, s'adressera à lui jusqu'au bout, condamnant le chrétien mais honorant le haut dignitaire qu'il fut. Donc, nous sommes dans un monde déjà partagé où l'évêque est un interlocuteur des autorités. À partir de l'édit de Milan, lorsque Constantin reconnaît le droit à l'Église d'exister, l'évêque devient immédiatement une personnalité officielle. Vous vous doutez bien que passer de la persécution effrayante qu'avait déclenchée Dioclétien et qui a duré dans ses méandres près de 20 ans, passer de cette persécution invraisemblable, la première persécution aussi longue, la première persécution aussi universelle selon les critères de l'époque, à un rôle officiel est évidemment un risque. Ces évêques vont se retrouver du jour au lendemain passant de la clandestinité à un rôle quasiment de fonctionnaire impérial. Comment concilier ces changements avec le rôle de l'évêque? Je vous le rappelle, bien que vous le sachiez déjà, que l'épiscopat est une fonction directement issue du collège apostolique, que les actes des apôtres évoquent déjà l'existence des anciens ou presbytres et celle des surveillants ou épiscopes. La hiérarchie catholique ne commence à prendre son aspect quasi définitif que vers 150, le pape Clément, déjà pourtant, comparait la hiérarchie ecclésiastique à celle de l'armée. L'évêque, membre de la succession apostolique, demeure encore élu et il le demeurera jusqu'au 5e siècle. Il est surveillant et pasteur. C'est lui qui est en charge de toute la vie sacramentelle. Peut-être êtes-vous étonné, lorsque vous regardez une carte des diocèses primitifs, de leur nombre invraisemblable. 185 diocèses pour les seules provinces d'Afrique qui ne sont pas christianisées. On se demande comment la chose est possible. Elle est possible tout bonnement parce que ces diocèses, en réalité, recouvrent des territoires qui aujourd'hui nous paraîtraient être ceux d'une vaste paroisse. Cela pour une raison évidente, l'évêque est en quelque sorte le seul véritable prêtre de son diocèse. Lui seul baptise, lui seul marie, lui seul le dimanche célèbre la messe et donne l'Eucharistie. Comme le dit Ignace d'Antioche, la validité des sacrements dépend de la présence de l'évêque. C'est à l'évêque également que revient d'enseigner la doctrine et de prêcher, de dire la foi catholique. Il est l'administrateur des biens de la communauté. Il est l'administrateur des œuvres sociales, de la charité de l'Église. Il est le père des orphelins, le protecteur des veuves. Cette tâche est évidemment écrasante. Si un homme seul devait gérer de la sorte la vie de la communauté dans un diocèse de la taille des diocèses modernes, il ne saurait y suffire. Les premiers diocèses sont donc de la taille d'une grande paroisse. Il faudra attendre, nous y reviendrons tout à l'heure, les initiatives de Saint-Martin à Tours pour voir apparaître ce que nous appelons les paroisses. Alors, en général, jusqu'à la paix de l'Église, ces évêques sont bons. Je dis en général car nous avons assisté, particulièrement lors de la persécution de Dèce, en 250-251, à des dérives inquiétantes. Vous vous souvenez que la persécution de Dèce a cette particularité de n'avoir pas été une persécution sanglante. L'édit de Dèce demandait seulement aux chrétiens un geste civique consistant à brûler de l'encens en l'honneur de la déesse Rome, de la fortune de Rome et de l'empereur. Dèce n'a jamais eu l'intention de persécuter. Il n'avait simplement pas compris que pour un chrétien, brûler de l'encens sur la déesse, devant l'autel de la déesse Rome, était en soi une apostasie. Le drame est que certains chrétiens, certains prêtres, certains évêques eux-mêmes ne l'ont pas compris. On assistera donc, particulièrement en Afrique et en Espagne, mais aussi à Rome dans une moindre proportion, à ce spectacle hallucinant d'évêques montant au temple, accompagnés de leur communauté entière pour aller jeter l'encens sur l'autel des idoles. Alors, évidemment, cela prouve que cet épiscopat n'est pas unanimement parfait. L'on verra aussi, Origène et Cyprien le dénoncent déjà, des évêques détourner les fonds de l'Église pour leur propre usage, qu'il s'agisse de mener grande vie, ou d'investir dans des affaires commerciales, voire maritimes, ce qui, à l'époque de la folie furieuse, la navigation antique, étant s'exposer à la ruine quasi certaine. Lorsque, par hasard, ces évêques gagnent beaucoup d'argent, l'on se scandalise qu'ils n'en reversent pas un sou aux pauvres. Cependant, si on arrive à des cas extrêmes, saint Augustin devra convoquer un concile régional pour juger le cas d'un évêque, tuteur de ses neveux orphelins, qui les aura tout simplement assassinés pour s'emparer de leur fortune. Si nous assistons donc à des dérives tout à fait exceptionnelles, si nous avons affaire parfois à des carriéristes, des crypto-païens, des voleurs, des mondains, des affairistes, des prévaricateurs et même exceptionnellement des assassins, dans l'ensemble, la fonction est unanimement respectée, même parmi les païens. Il est donc tout à fait normal que l'édit de Milan donne à l'épiscopat catholique une position prééminente. Cette reconnaissance est-elle un piège ? Peut-être, car désormais, l'épiscopat se retrouve, comme le reste de l'Église, sous la suggestion de l'empereur, en tutelle. Constantin a-t-il conscience qu'il veut un clergé fonctionnarisé et soumis ? Lui, peut-être pas. Ses successeurs le comprendront infiniment mieux. Les évêques, désormais considérés comme de hauts dignitaires, en profitent, évidemment. Il est plus agréable de vivre dans un palais, de porter des vêtements de soie, de posséder une litière de luxe pour se déplacer, et petit détail, de jouir des avantages de la poste publique. N'oublions pas qu'il n'existe pas de poste au sens où nous l'entendons dans le monde romain. Alors évidemment, je sais qu'à l'heure d'Internet, pour vous, messieurs les abbés, l'idée d'écrire une lettre vous apparaît probablement extrêmement démodée. Cependant, prenons le cas de saint Augustin, qui pourtant aurait le droit, étant déjà à l'époque évêque d'Hippone, aurait le droit de se servir de la poste publique, qui a l'intelligence de ne pas le faire. Il écrit à saint Jérôme, à Bethléem. Ce n'est qu'au bout de 2 ans et demi qu'il commence à s'étonner de n'avoir pas reçu de réponse. En fait, Jérôme ne souhaite pas lui répondre, c'est un détail. Mais 2 ans et demi pour faire passer une lettre de la frontière algérienne à Bethléem et attendre une réponse, c'est tout de même fort long. Pourquoi ? Comment fait-on quand on ne bénéficie pas de la poste publique ? On écrit 4 ou 5 exemplaires de sa lettre, parce qu'on sait qu'elles vont se perdre. On les remet à un soldat qui rentre au pays, à un commerçant qui a des affaires dans le coin, à des gens qui rentrent dans leur famille. Et on leur dit, tu iras chez mon ami un tel qui habite à... S'il habite à Rome, par exemple, il habite à Rome, rue du Poirier, tu verras, ce n'est pas difficile. Quand tu arrives au forum de César, tu prends le petit escalier qui monte, tu montes le petit escalier, quand tu es en haut, tu vois une petite place qui s'appelle la place du Poirier, parce qu'il y a un poirier au milieu. Tu regardes la 4e rue à droite, tu la prends, il y a là 5 ou 6 marches, tu les montes, tu tournes 3 fois à gauche, 4 fois à droite. Là, tu repères une maison qui a une enseigne de cordonnier, tu en comptes encore 5, tu tournes à gauche, et là, tu arrives chez mon ami un tel, s'il n'a pas déménagé, tu déposeras la lettre. Un peu compliqué. Quand vous bénéficiez de la poste publique, votre lettre est remise au courrier officiel. Un cavalier de l'armée va la transmettre par des relais de poste. Il faut savoir qu'un courrier entre Lyon et Milan à l'époque, tout en passant à l'école alpine dans des conditions difficiles, met en moyenne 3 jours. Il en faut 6 pour atteindre Rome. Vous comprenez bien qu'il est beaucoup plus pratique de bénéficier de la poste publique, de la poste impériale. Il est bien évident qu'un évêque qui a des affaires à traiter peut être tenté. Mais très vite, ces arrangements se payent. Ils se payent par l'immixtion de l'empereur dans les affaires religieuses. Nous le verrons dès le début de l'arianisme, lorsque l'on commencera à vouloir faire condamner les dérives d'Arius, dérives auxquelles malheureusement Constantin est sensible, puisqu'il est conseillé par Eusèbe de Césarée, grand historien, mais hélas, hélas, hérétique, et qui convertira sur son lit de mort Constantin à l'hérésie, puisqu'en 337, Constantin sera, hélas, baptisé dans l'arianisme. Donc, il faut voir le risque et la tentation pour ces évêques d'être bien avec le pouvoir impérial. Nous savons bien qu'Athanase, le grand évêque d'Alexandrie, qui s'est opposé à Arius, est finalement exilé sur l'ordre de Constance II à Trèves. Nous savons bien que le même Constance, voulant imposer l'arianisme, fera systématiquement déporter à l'autre bout de l'Empire les évêques qui restent catholiques, Denis à Milan, Hilaire à Poitiers, et bien d'autres. Alors, comment ne pas comprendre, humainement parlant, s'il y a des Saint-Hilaire, s'il y a des Saint-Athanase, s'il y a des Saint-Denis de Milan, il y a aussi des hommes qui n'ont aucune envie de quitter le confort de leur évêché pour aller se retrouver exilés à l'autre bout de l'Empire. Peu à peu, nous voyons donc, dans le courant du IVe siècle, se mettre en place une hiérarchie épiscopale qui a tristement tendance à chercher les petits arrangements avec le monde. Un clergé, un épiscopat carriériste. Or, dans ces cas-là, Dieu envoie des saints pour réformer ce genre de dérive. En 371, l'évêque de Tours, le second, puisque le premier, Saint Gatien, envoyé par le pape Fabien, créé l'évêché de Tours, Saint Gatien est mort martyrisé. Et il n'a jamais été remplacé jusque dans les années 350. Tours est resté sans évêque et sans clergé pendant près de 100 ans. Le second évêque de Tours, Lidoire, meurt. La place est bonne à prendre. Tours est capitale ecclésiastique de la Lyonnaise seconde, c'est-à-dire que l'archevêque de Tours contrôle tous les diocèses du nord-ouest de la Gaule et une bonne partie de la Rhénanie, dont Trèves, capitale impériale, l'évêque de Tours est non seulement un haut dignitaire religieux, il est aussi un haut dignitaire politique. La place est bonne à prendre, elle plaît énormément à l'évêque d'Angers, qui s'appelle Défensor, et qui se met immédiatement sur les rangs pour briguer la succession de Lidoire. Or, les Tourangeaux ne veulent pas de Défensor. Ils ont entendu parler d'un personnage célèbre pour ses qualités d'exorciste, ses qualités de thaumaturge, qui fut en son temps le bras droit de l'évêque de Poitiers, Hilaire, qui a refusé d'en devenir l'archidiacre car il sait pertinemment que cela l'obligerait à succéder à Hilaire sur le siège de Poitiers. Cet homme, c'est Martin. Vous connaissez Saint-Martin, vous savez son parcours. Depuis quelques années déjà, il s'est retiré dans le monastère qu'il a fondé à Ligugé, le premier monastère de France. Il y vit dans la prière et la retraite. Il y fait des miracles, on lui attribue 2 résurrections. Et sa réputation s'est répandue bien au-delà de Ligugé. Et les Tourangeaux veulent Martin pour évêque. Or, ils savent pertinemment que jamais Martin n'acceptera de quitter Ligugé pour l'épiscopat. Alors, usage étonnamment fréquent à l'époque, l'on va tout bonnement enlever Martin. Je vous avais dit qu'à l'époque, l'humilité des véritables saints étant grande, il arrivait que l'on ordonna de force, mais on fait aussi des évêques de force. Donc, un commerçant tourangeau va se présenter à Ligugé, il va frapper à la porte, dire « Je veux voir Martin, ma femme est mourante, j'ai besoin de ses dons de thaumaturge. » Martin, qui n'est pas méfiant, va sortir. Et là, on va le bâillonner pour l'empêcher d'appeler ses moines à l'aide. On va le jeter sur le dos d'une mule ligotée et on va l'emmener à Tours, où l'on va quasiment le sacrer évêque de force. Martin a la sagesse d'y voir la volonté de Dieu, il ne proteste pas. Mais certains protestent, à commencer par Défensor. « Qu'allez-vous faire, malheureux, de cet évêque ? Regardez-le. Il est mal peigné, il est perpétuellement en haillons. » Ah, on ne peut pas en dire autant de Défensor, qui porte une superbe simarre de soie et qui se fait boucler les cheveux tous les matins par son esclave coiffeur. Donc, Martin présente mal. Il présente si mal que lors d'une de ses premières tournées épiscopales, il est là, il n'a pas pris la litière épiscopale. La première chose qu'est faite Martin, n'est-ce pas, c'est de refuser d'habiter le palais épiscopal. Il s'est installé dans une espèce de cahute à côté de la cathédrale. Il dort sur de la paille au lieu de dormir dans un lit. Il mange du pain au lieu d'assister au repas à l'évêché. D'ailleurs, ça lui fait énormément de tort parce qu'une partie de son presbytérium appréciait les repas à l'évêché. Et là, aller partager le pain de Monseigneur, c'est moins agréable. Donc, Martin a renoncé à tout le faste épiscopal, et lorsqu'il est obligé de faire une tournée un peu lointaine, eh bien, il prend une vieille mule qui boite, qui ne présente pas bien. Comme il fait un peu frais, il s'enveloppe dans une sorte de peau de chèvre qui n'a peut-être pas été très bien tannée, car la chose sent assez fort. Très ébouriffé de surcroît, de sorte que Martin présente un aspect assez surprenant. Tellement surprenant que pendant cette tournée épiscopale, il croise l'attelage du percepteur. Il faut bien voir, messieurs les abbés, que le fisc est à l'époque le drame, le malheur, le désespoir du monde romain. Dans une société démographiquement ébranlée par les épidémies, par la contraception, par l'avortement, eh bien, il faut tout de même des gens pour payer les impôts. Donc, on pressure cruellement le peuple. On le pressure si cruellement qu'il est à genoux. Nous assistons à ce spectacle invraisemblable dans un empire chrétien de contribuables ruinés qui ne pouvant plus payer leurs impôts lorsque l'on a saisi leurs maisons, leurs biens, leur bétail, leurs meubles, qui n'ont absolument plus rien, voient saisir pour les vendre en esclavage leurs propres enfants. Ça ne s'est jamais vu dans le monde païen. Dans cet empire chrétien du IVe siècle, l'on enlève des enfants à leurs parents pour payer leurs dettes au fisc. L'Église s'en scandalise, mais elle s'en scandalise en vain. Autant dire que les liens entre l'épiscopat et le fisc sont un peu distants. Et voilà donc la belle voiture du percepteur, traînée par de beaux chevaux, chargée à ras-bord de tout l'or qu'il a pressuré aux malheureux villageois. Et d'un coup arrive en face cet étrange équipage, cette mule boiteuse, surmontée d'un... Ça ne ressemble pas à un cavalier. Ça a l'air d'une sorte d'ours, juché sur une mule, un ours qui se déplace. Je vous le disais, ça sent très fort. C'est surtout ça qui importune les chevaux. Ils sont persuadés d'avoir une bête féroce qui se précipite sur eux. Les malheureux chevaux s'emballent et jettent la voiture du percepteur dans le fossé. Le percepteur n'apprécie pas l'accident. Il se sort de la voiture un peu perclus, un peu bleu. Il voit la cause de l'incident, car Martin Charitable s'est arrêté. Il constate qu'il s'agit d'une sorte de bête humaine et il donne l'ordre à ses gens de lui donner du bâton pour lui apprendre à avoir manqué de respect au percepteur. Notez que Martin, dans son humilité, oublie de signaler qu'il est l'archevêque de Tours. Il va être rossé à rester par terre, quasi assommé. Et là, il se passe quelque chose de tout à fait curieux. Le percepteur, assez content de lui, remonte dans sa voiture et donne l'ordre que l'on reparte. On a calmé les chevaux. Les chevaux ne bougent plus. On dirait qu'ils sont transformés en pierre. On a beau les fouetter, rien. Au bout d'un quart d'heure environ, le percepteur commence à s'inquiéter. Il se demande qui est l'homme qui l'a fait rosser de la sorte. À ce moment-là, des gens arrivent et disent « Miséricorde, tu as assommé l'archevêque ». Quel archevêque ? Martin. Martin qui est un saint, Martin qui est un thaumaturge. Et il va falloir ranimer Martin, lui présenter de plates excuses pour que l'attelage reparte. Oui, Martin présente mal, mais il est un saint. Et il voudrait, lui, que les choses aillent mieux dans l'épiscopat. Alors, je vous le disais, il n'a pas voulu vivre dans le palais épiscopal, mais très vite, il souhaite s'entourer d'une communauté comparable à celle dans laquelle il vivait à Ligugé. C'est ainsi qu'il va fonder ce qui deviendra l'abbaye de Marmoutier, qu'il confie à l'un de ses disciples, Claire, et cette communauté de Marmoutier, qui très vite va grandir et croître, Martin a l'intention d'en faire plus qu'une abbaye, une pépinière épiscopale. Il veut que de Marmoutier sortent des prêtres pieux, saints, humbles, modelés aux valeurs évangéliques, des prêtres qui, s'ils accèdent à l'épiscopat, demeureront avant tout dans l'humilité évangélique qui était celle dans leur vie monacale. C'est un choix difficile car l'évêque, comme le prêtre séculier, est dans le monde. Or, à l'époque, vous le savez, le moine se veut totalement hors du monde. On dit à l'époque, le moine est moine pour lui, le prêtre est moine pour le monde. Nous en avons un cas extrême avec Saint Jérôme, ordonné de force à Antioche. et qui lui refusera obstinément tout au long de sa vie de célébrer la messe. Il dira « Je ne voulais pas être ordonné, je ne dirai jamais la messe », comme il est têtu comme une bourrique, effectivement il ne le fera jamais. Même pas lorsque l'abbé de Bethléem, brouillé avec l'évêque Jean de Jérusalem, est frappé d'interdit, n'ayant plus de prêtre pour célébrer la messe, il préférera laisser sa communauté, celle de Saint Paul, privée des sacrements, plutôt que de célébrer ne serait-ce qu'une seule fois. Donc, nous assistons à l'installation sur les sièges épiscopaux gaulois, grâce à Martin, d'un certain nombre de figures tout à fait remarquables, de figures saintes. Je n'en cite qu'un pour le plaisir, c'est l'évêque d'Angers, le successeur de Défensor, Morille, et je le cite parce que Morille se retirera systématiquement chaque semaine à quelques kilomètres d'Angers sur le mont Glonne. Ceux d'entre vous qui sont peut-être originaires de l'Ouest connaissent le mont Glonne. Aujourd'hui, c'est Saint-Florent-le-Vieil. Et c'est là, sur le mont Glonne, que Morille aura à plusieurs reprises des apparitions de la Sainte Vierge. Apparition d'une certaine importance, puisque Notre-Dame lui dira que son fils souhaite que soit désormais célébré l'anniversaire de la naissance de sa mère. Et la Sainte Vierge révélera à Morille qu'elle était née un 8 septembre, d'où la fête de la nativité de Notre-Dame, d'abord appelée Notre-Dame Langevine, avant de se répandre dans l'ensemble de la catholicité. Donc, à la mort de Martin, en 396, l'intégralité du clergé gaulois et de l'épiscopat gaulois ont été correctement reprises en main, et c'est d'une importance capitale. Le même phénomène s'est produit en Italie, peut-être moins atteinte d'ailleurs, mais je voudrais que nous nous arrêtions un instant, quoique j'ai déjà fait cette conférence il y a quelques années, sur la figure de saint Ambroise. Vous savez qu'Ambroise appartient à une grande famille catholique. Il est le petit-neveu d'une martyre, sainte Sotéris. Son père, appartient à cette catégorie de catholiques qui ne seront jamais baptisés. Le père d'Ambroise mourra en 342 sans avoir reçu le baptême, parce que, haut fonctionnaire, il a attendu jusqu'au bout, craignant qu'ayant des péchés et du sang sur les mains en raison de ses fonctions, il ne puisse s'en purifier. Donc, Ambroise est arrivé à l'âge de 30 ans passé sans avoir reçu le baptême, tout comme son père, car lui aussi, comme son frère Satyrus, sont lancés dans cette carrière administrative où il fait merveille. Nous sommes en 373. À Milan se pose une question assez tragique. L'empereur Valentinien Ier, quoique catholique, a commis l'erreur d'épouser en deuxième noce une femme remarquable, d'intelligence politique. Non seulement elle est belle à tomber, mais en plus c'est une intelligence politique redoutable. Et nous dirions aujourd'hui qu'elle possède un carnet d'adresses absolument irremplaçable. Cause pour laquelle Valentinien, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a répudié sa première épouse, la pauvre Marina, la mère de son fils aîné, pour épouser Justine, qui, politiquement parlant, lui était beaucoup plus utile. Et Justine n'a qu'un défaut, mais énorme, elle est arienne. Et elle va réussir à convaincre son mari de ne pas déposer les évêques ariens encore en poste en Italie. Parmi eux, l'évêque de Milan, Auxence, personnage difficile qui a abondamment persécuté le clergé catholique. C'est lui qui, lors du passage de Saint-Martin à Milan quelques années plus tôt, l'a fait fouetter et a obtenu sa déportation sur un îlot du golfe de Gênes. Mais Auxence est vieux, Auxence est malade. L'on sait que tôt ou tard, il va mourir. On pourra donc enfin le remplacer. Le remplacer par qui ? Un évêque catholique, bien entendu, c'est le vœu de Damase, le pape. Mais si l'on nomme un évêque catholique à Milan, Justine le prendra très mal. L'on ne peut cependant pas nommer un évêque arien, ce serait un scandale. Par conséquent, le préfet du prétoire, le premier ministre, le bras droit de Valentinien, Probus, va chercher une solution de compromis. J'aime volontiers à dire que Prabhu, c'est un curieux mélange entre l'homme politique de génie et le capo dei capi, le chef mafieux. J'ai tendance à dire qu'il est plus capo dei capi comme politique. Ça n'empêche pas d'être bon catholique. Du moins le croit-il. Et Prabhu se dit, j'ai la solution. J'ai nommé préfet d'Illyrie ce jeune Ambroise que je connais depuis son adolescence, qui est un garçon remarquable. Il est honnête, il est efficace. C'est un très bon préfet. Il n'a jamais été corrompu. Ça fait 10 ans qu'il est en poste. Il n'a jamais été corrompu. Je suis très content de lui. Je peux lui faire une confiance absolue. Je peux d'autant plus lui faire confiance qu'à 34 ans, il n'est toujours pas baptisé. C'est donc, bon, je sais que sa famille est catholique, mais c'est un catholique un peu tiède, voyons les choses en face. J'ai donc une confiance absolue en lui. Je vais le faire nommer préfet de Milan, préfet laïque, bien entendu. Mais dans quelques années, lorsqu'Auxence ira retrouver le Seigneur, eh bien nous nous arrangerons pour qu'Ambroise lui succède. Et nous aurons ainsi un préfet, un évêque qui fera plaisir à tout le monde, un catholique tiède qui ne dérangera pas les Ariens, mais qui rassurera les catholiques. Ambroise devrait se méfier, puisque lorsqu'il quitte Probus pour se rendre à Milan, celui-ci lui tient ses propos sibyllins. Pars, Ambroise, et conduis-toi, non comme un préfet, mais comme un évêque. Ambroise ne saisit pas le message. Il est jeune, il est naïf. Il sera un remarquable préfet, jusqu'au jour, effectivement, où en octobre 374, ce qui devait arriver arrive, Auxence meurt. Et ce qui devait arriver aussi se produit. Je vous le disais tout à l'heure, les évêques sont élus. Les partisans d'Auxence et les catholiques en viennent aux mains. C'est la bagarre générale. Il ne faut pas oublier qu'en 366, à Rome, lors de l'élection de Damase, ça s'est si mal passé que les partisans de Damase ont fini par enfermer le parti adverse dans la basilique Sainte-Marie du Transtévère. Oui, ils les ont massacrés. Ce qui a fait tout de même assez mauvais effet. Les païens se sont répandus dans les rues de Rome en ricanant. Regardez-les, voyez comme ils s'aiment. Bon, Ambroise ne veut pas que la même chose se produise. Lorsqu'il apprend qu'il y a des troubles à la basilique Porcia, la cathédrale, Rome, cathédrale catholique, il s'y rend. C'est un orateur très doué. Il prend la parole, il essaye d'apaiser les esprits. Il y parvient. Il va se retirer en leur disant « Je vous laisse réfléchir pour élire le meilleur des successeurs possibles à Auxence. » Lorsque du fond de la foule, une petite voix, celle d'un enfant, s'écrie « Ambroise, évêque. » Ambroise sait très bien qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Dans les mentalités de l'époque, encore fortement marquées par le paganisme, la voix des enfants risque fort d'être la voix de Dieu. Il prend la chose très au sérieux. Il s'écrie, mais vous plaisantez. Vous savez bien, je ne suis même pas baptisé. Mais la foule reprend en cœur. Ambroise évêque, Ambroise évêque. Ambroise affolé s'enfuit. Il va se réfugier à la préfecture. Et là, il va essayer de convaincre la foule qu'il n'est pas l'homme de la situation. Que va-t-il faire? Lui, dont la chasteté est bien connue, il va convoquer les prostituées les plus célèbres de Milan. Il va les prier d'arriver dans leurs plus beaux atours et leur litière la plus voyante, de stationner juste devant la porte de la préfecture, que tout le monde les repère, s'il vous plaît. Ça ne suffit pas, la foule ameutée crie « Ce n'est pas grave !»« Ce n'est pas grave, tu n'es pas baptisé !»« Le baptême lavera tout !» Ambroise, épouvanté, se rend au tribunal. Il n'a jamais fait torturer un prévenu de sa vie. Cet après-midi-là, il les fait tous torturer. Vous voyez, je suis un monstre. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas baptisé. Le baptême lavera tout. Alors, il se dit, il faut chercher autre chose. Un péché plus grave, un péché spirituel. Il convoque les philosophes néoplatoniciens les plus hostiles au catholicisme. Là encore, s'il vous plaît, messieurs, faites-vous remarquer en entrant à la préfecture que tout le monde vous voit. Et vous voyez, je suis si mauvais, je suis si peu chrétien que je discute avec les pires opposants au christianisme. Ce n'est pas grave, le baptême lavera tout. Alors que fait Ambroise ? En pleine nuit, il s'enfuit lamentablement, il quitte Milan en cachette. Il a à peine fait 10 kilomètres et il se dit « qu'est-ce que je suis en train de faire ? Demain, on va arriver au palais préfectoral, on va constater que le préfet est parti en pleine crise politique. Je suis un déserteur, je ne peux pas faire ça. » Il revient sur ses pas, il rentre, il se dit « soyons raisonnables, je vais écrire à l'empereur et à Probus en leur disant « il m'arrive une petite histoire un peu stupide, il faut que vous me confirmiez dans mes fonctions de préfet que vous cherchiez un autre évêque. » Pauvre Ambroise qui n'a pas compris qu'il avait donné dans un coup monté depuis le début. Probus et Valentinien lui répondent par retour du courrier. Ah, eux, ils ont la poste impériale. Cher Ambroise, nous sommes si contents. Tu es l'homme de la situation. Nous acceptons ta démission, qu'il n'a pas donnée. Nous acceptons ta démission. Tu as notre bénédiction, tu seras un grand évêque. Cette fois, Ambroise, épouvanté, fugue une seconde fois. Il va se réfugier chez un ami qui possède une propriété au bord du lac Majeur. Et il lui dit, « S'il te plaît, ne dis pas que je suis chez toi. » Mais pendant ce temps-là, on a repéré la fuite du préfet-évêque ou de l'évêque-préfet, on ne sait plus très bien ce qu'il est. Et dans toutes les rues de Milan et des environs, on affiche « Wanted ». Nous recherchons un dangereux hors-la-loi, le préfet Aurelius Ambrosius, évêque de Milan, qui a pris la fuite. Toute personne ayant des renseignements à son sujet est priée de prévenir la police. L'ami d'Ambroise lit l'affiche, il se précipite au commissariat, il dit « je n'ai pas d'ennui avec l'empereur, Ambroise est chez moi ». Et l'on va assister à ce spectacle extravagant. La police va débarquer dans la belle villa au bord du lac Majeur, va passer les menottes au poignet d'Ambroise et va le ramener manu militari à Milan. Alors il se passe quelque chose de remarquable. Sur l'instant, Ambroise est dans une colère rouge. Trahir un hôte, c'est bien ce qu'un aristocrate romain peut faire de pire. Il regarde son ami Léonce, il n'a qu'une envie, c'est de lui dire ce qu'il pense de lui. Le seul mot qui lui vienne à l'esprit, qu'il va lui jeter à la figure, c'est « Judas ». Mais Judas, ça ne passe pas. D'un seul coup, Ambroise se sent submergé de honte. Il se croyait, quoique non baptisé, bon chrétien. Il a une sœur religieuse, Marcellina. Il est le neveu d'une martyre. Il croyait de jusque-là qu'il était un bon chrétien. D'un seul coup, il se voit tel qu'il est, un déserteur, un lâche, qui refuse le poste où Dieu l'appelle. Et Ambroise va arriver à Milan. Il va écrire une lettre superbe à Valentinien, où il dit « Seigneur, jusque-là j'étais ton préfet. Je t'ai servi comme préfet. Je lis dans ton jeu et dans celui de Probus. Vous avez cru que d'un préfet laïque, vous feriez un préfet religieux à votre convenance. Mais Seigneur, en acceptant ma démission, en me donnant congé, tu m'as rendu ma liberté. Désormais, sois sans illusion, je ne servirai plus que Dieu. » Toute la carrière épiscopale d'Ambroise, je vous renvoie à ma conférence d'il y a 4 ans, car nous n'avons pas le temps d'évoquer la carrière d'Ambroise. Toute la carrière d'Ambroise sera cette lutte pour imposer la vérité catholique face à l'arianisme, mais face également aux dérives du pouvoir. Vous savez qu'à la mort de Valentinien Ier, qui disparaîtra prématurément, laissant 2 enfants, son fils du premier lit, Gratien, un garçon de 17 ans, totalement dépassé par les événements, et le demi-frère de Gratien, Valentinien Ier, Valentinien II, qui à l'époque n'a que 4 ans, eh bien, Ambroise va servir de tuteur à ses 2 enfants, particulièrement à Gratien. pour lequel il écrira cet admirable texte qui s'appelle le De Fide et Gratianum. Comme le De Fide et Gratianum n'est pas un texte particulièrement facile et qu'intellectuellement parlant, Gratien était un garçon un peu limité, je ne suis pas très certaine qu'il ait jamais réussi à le lire. Par contre, je suis persuadée qu'Ambroise lui a fait un résumé circonstancié avec des termes simples. Mais ce que veut Ambroise, c'est faire comprendre à Gratien qu'il doit être désormais un empereur chrétien. C'est lui qui le convaincra de renoncer à ce titre, titre païen, titre de prêtre des idoles, de Pontifex Maximus, que l'empereur continuait à porter. C'est lui qui le convaincra de retirer du Sénat romain cet autel de la victoire mis en place par Auguste, cet autel symbole des triomphes et de la puissance de Rome, devant lequel les sénateurs, jusqu'au parti catholique au Sénat, continuent à délibérer. S'il est relativement facile d'imposer sa volonté à Gratien, et plus encore à un enfant comme le sera Valentinien après l'assassinat de son frère, il l'est moins de l'imposer à un homme fait. À la mort de Gratien, un homme apparaît sur le devant de la scène, c'est Théodose, le grand Théodose, déjà empereur d'Orient depuis la mort de Valens, le frère de Valentinien Ier, devant Andrinople en 378. Il est bien évident que deux enfants face à un homme de 40 ans qui possède une grande expérience de la vie politique et de la vie militaire ne pèsent pas lourd et très vite, Théodose, qui lui se mêle des affaires religieuses, va se méfier d'Ambroise. La réciproque est vraie, Ambroise se méfie de Théodose. Lorsque, finalement, en 388, après la défaite de l'usurpateur Maxime, l'assassin de Gratien, Théodose arrive pour la première fois à Milan, c'est immédiatement des heurts violents entre lui et Ambroise. Il y a mauvaise coutume en Orient, c'est qu'on s'y passionne tellement pour les choses religieuses que l'on se dispute et l'on se dispute violemment. Un jour, les Ariens brûlent une église catholique, éventuellement avec les catholiques à l'intérieur. Le lendemain, ce sont les catholiques qui brûlent une église arienne, éventuellement avec les Ariens à l'intérieur. Et puis, on s'en prend à telle ou telle secte. Un jour, ce sont les Ébionites qui s'en prennent aux Martionites. Les Martionites s'en prennent aux Angélites. J'en passe et des meilleurs. De sorte que ce sont des bagarres perpétuelles. Et la dernière, chaque fois que ce genre de choses arrive, quand les catholiques sont impliqués, eh bien, l'empereur, tout catholique qu'il soit, dit systématiquement « C'est votre faute, vous êtes en tort, je vous astreins à réparer les dégâts et à payer des dommages et intérêts à la partie adverse. » Et là, justement, cet été 388, un incident de ce genre s'est produit à la frontière avec l'Empire perse, à Callinicée. Les chrétiens de Callinicée ont mis le feu à la synagogue. Les juifs se sont plaints, ils ont raison. Et une fois de plus, l'empereur a donné raison aux adversaires des catholiques. Donc il a prié l'évêque de Callinicée de bien vouloir reconstruire à ses frais la synagogue. Ambroise l'apprend. Il se trouve qu'au consistoire, au conseil des ministres, il a deux ou trois informateurs qui viennent dire à Ambroise « L'empereur vient d'ordonner à l'évêque de Callinicée de reconstruire la synagogue. » Ambroise écrit une lettre très ferme. « J'ai lu le dossier. » Ce qui prouve qu'il y a des gens qui lui ont apporté le dossier discrètement, tout de même. « J'ai lu le dossier. Seigneur, il est manifeste que dans le cas présent, tu as eu tort. Je n'aime pas cette façon que vous avez systématiquement, les uns et les autres, donné toujours tort aux catholiques, surtout quand ils sont dans leur bon droit. Alors, vois-tu, si tu te présentais dimanche à la cathédrale, je crois que je ne te donnerais pas la communion. » Il faut oser. C'est l'empereur, quand même. Mais Ambroise ose. La première fois que Théodose s'est présenté à la cathédrale, il est allé s'installer dans le chœur à côté du clergé, parce qu'à Constantinople, l'empereur siège à côté de l'évêque dans le chœur. Et Ambroise, imperturbable, s'est levé. Il a pris gentiment Théodose par l'épaule et il lui a dit « Ta place, c'est là-bas, dans la nef. » Il l'a fait sortir. Théodose a été très profondément vexé. L'affaire de Caliniqué ne l'apprend pas bien. Il dit « Qui est-ce qui est allé raconter ça à Ambroise? Qui est-ce que consistoire s'amuse à transmettre mes dossiers à l'évêque? Désormais, celui que je prends en flagrant délit d'informer l'évêque, je le fais écorcher vif. » On n'informera plus Ambroise, malheureusement. Au printemps 390, à Thessalonique, en Grèce, arrive un incident stupide. Le préfet de Thessalonique est un Visigoth vaguement civilisé, vaguement hellénisé. Il a réussi à transformer son nom de Boutéric en Boutéricos. Ça fait plus grec. Mais la seule chose que Boutéricos est véritablement emprunté aux mœurs locales, c'est un goût passionné pour les petits jeunes gens. Et Boutéricos a un jeune page auquel il est très attaché qui un jour rentre en disant « Seigneur, je suis très ennuyé parce que quand je me promène en ville, je suis importuné par un monsieur. » « Qui est ce monsieur ?» Oh, tout le monde le connaît, c'est un ourige, tu sais, c'est le champion de la ville. Boutéricos voit rouge, il fait arrêter l'ourige. Oh, erreur fatale. Qu'est-ce qu'un ourige dans le monde antique? Champion de football, un pilote de Formule 1, tout cela puissance 10, que dis-je puissance 100. Et justement, dans quelques semaines, il y a des courses. Si l'ourige champion de Thessalonique n'est pas là, bien, les gens qui ont parié sur lui vont perdre des fortunes. Ils vont trouver Boutéricos et lui dit « Tu es gentil, tu libères notre champion. » Boutéricos dit « Non, certainement pas. » Et alors là, il ne faut jamais, jamais jouer avec les passions sportives des gens. C'est très dangereux. Ces braves Thessaloniciens, ils vont assassiner Boutéricos pour libérer le champion. La nouvelle va finir par atteindre Milan assez vite, toujours la poste impériale. Et Théodose se met dans une colère effroyable. Il dit « Je veux des représailles terribles que personne n'ose plus s'en prendre à l'un de mes préfets. » Des représailles terribles. Théodose a publié il y a quelques années un code admirable tellement qu'il est pénétré d'esprit chrétien. Il a tout de même demandé que l'on examine les motifs des coupables, qu'on leur cherche des circonstances atténuantes. Il a demandé systématiquement un délai de 30 jours entre une condamnation à mort et son exécution, ce qu'il appelle le délai de la clémence, afin qu'on ait le temps de se calmer et de gracier. Mon Dieu, pourquoi Théodose oublie-t-il ce qu'il a fait lui-même à ce moment-là? Il est tellement en colère qu'il va donner un ordre invraisemblable. Il va écrire aux armées cantonnées en Grèce de se porter sur Thessalonique et de décimer la population. Il l'entend au sens du droit militaire romain, qui consiste, comme vous le savez, lorsqu'une légion se mutine, à faire aligner les hommes et à faire exécuter systématiquement 1/10, sans savoir s'il est coupable ou pas. La mesure est déjà douteuse en droit militaire. Si vous l'appliquez à une population civile, vous imaginez bien le résultat auquel vous allez parvenir. Massacrer au petit bonheur la chance 1 Thessalonicien sur 10, vieillards, hommes, femmes et enfants compris, et touristes. C'est évidemment un peu osé. Théodose ne s'en aperçoit pas, il donne des ordres, mais là, pour une fois, quelqu'un au consistoire épouvanté se dit « Il faut prévenir Ambroise, il est le seul capable de l'empêcher de faire une chose pareille. » On va prévenir Ambroise, qui se trouve à Versailles ce jour-là, en compagnie d'un groupe d'évêques de la Cisalpine. Ils sont tous saisis d'horreur. Il faudrait aller dire à l'empereur qu'il ne peut pas faire ça. C'est sûr, il faudrait aller le lui dire. Oui, qui c'est qui va aller le lui dire? On y va tous. Qui est volontaire? Qui est-ce qui va se rendre à Milan tout seul? Ambroise. Il se précipite au palais impérial et il dit: tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas pu donner un ordre pareil. Alors Théodose, dont la colère est déjà un peu retombée, qui n'est plus très fier de lui, dit: si, je l'ai donné. Bon, je regrette. Et puisque tu regrettes, envoie un courrier immédiatement, contremande ton ordre, tu ne vas pas laisser faire une chose pareille. Et Théodose donne l'ordre, en effet, qui contremande l'exécution de la dixième de la population de Thessalonique. Seulement, au consistoire se trouve un ministre païen, absolument scandalisé, qui dit: si l'évêque commence à dicter des ordres à l'empereur, où est-ce que nous allons? Il ne va pas envoyer la lettre. Elle ne partira jamais. La première va arriver et l'on va effectivement assister à un massacre à Thessalonique. Les historiens byzantins vont parler de 70 000 morts. Peut-être le chiffre est-il exagéré. Il faut souhaiter que le chiffre soit exagéré. Mais le fait est que le massacre est abominable et que quand la nouvelle en arrive à Milan, elle frappe tout le monde de stupeur. D'une telle stupeur que l'on a du mal à croire la chose possible. L'on se demande comment un empereur chrétien a pu faire une chose pareille. Une fois de plus, le seul qui aura le courage de le dire, c'est Ambroise. Je vous cite en partie la lettre qu'il adresse à Théodose. « Seigneur, ce qui est arrivé à Thessalonique est de mémoire d'homme, sans précédent. Il s'est passé là-bas quelque chose d'atroce, de sans exemple. Je souffre de te voir, toi, qui étais un modèle de piété, encore inconnu, toi qui pratiquais la clémence à son plus haut degré, toi qui ne supportais pas même de voir exécuter un coupable, accepter sans émotion la mort de tant d'innocents. Bien sûr, tu as connu de nombreuses victoires. Bien d'autres actions t'ont valu des louanges. Mais c'était ta piété qui mettait le comble à ta gloire. Et c'est de ce que tu possédais de meilleur que le diable est devenu jaloux. Ce crime odieux, Seigneur, il pèserait aussi sur moi si ni moi, ni personne ne te disait qu'il est nécessaire de te réconcilier avec Dieu. Tu es un homme. Le péché est venu. Eh bien, chasse-le. Je n'oserais offrir le saint sacrifice si tu voulais y paraître à l'église et y assister. Il m'est interdit de célébrer en présence d'un homme qui a versé le sang innocent. Comment serais-je autorisé à célébrer devant celui qui a répandu le sang de tellement d'innocents? Je ne pense pas en avoir le droit. Je t'écris de ma propre main cette lettre que tu seras seul à lire. Si tu es chrétien, fais ce que je te demande. Sinon, pardonne-moi ce que je fais. Mais adieu, ma préférence. Cette lettre de saint Ambroise est absolument admirable. Vous n'en lirez pas beaucoup comme elle dans tout le reste de l'histoire de l'Église. Il faut l'audace extraordinaire d'Ambroise, de cet évêque qui est aussi un homme politique, mais qui est d'abord un évêque, pour oser se dresser devant un homme dont on sait maintenant de quoi il est capable, pour lui dire qu'il le frappe, parce que c'est bien la chose, d'une sentence d'excommunication. L'on peut s'attendre au pire. Le pire ne va pas se produire. Mis devant la gravité de son péché et de son crime, déjà profondément troublé de la gravité de son acte, Théodose va décider de faire pénitence. Alors, vous savez ce qu'il en est de la pénitence dans la primitive Église, de sa dureté, de sa longueur, Pour ce que l'on en sait, Théodose ne va pas subir l'une de ces pénitences terribles. Il ne fera pas comme la pauvre sainte Fabiola qui, pour se faire pardonner son divorce et son remariage, pour faire pénitence pour elle-même et pour le mari qu'elle avait tant aimé qui était mort accidentellement, ira se coucher pendant des mois, chaque dimanche, sur le parvis de Saint-Pierre, pour que tous les gens qui entrent dans la basilique s'essuient les pieds sur elle. Non, on n'ira pas jusque-là avec l'empereur. Mais Théodose, pendant 3 mois, fera pénitence. Ambroise lui priera de quitter les tuniques de soie impériale et toute la pompe qui va avec. Il l'astreindra au jeûne et le soir de Noël 390, date marquée d'une pierre blanche dans l'histoire de l'Église, on assistera à ce spectacle invraisemblable d'un empereur pieds nus, dépouillé de toute la pourpre impériale et de tout son faste, à genoux dans le narthex de la basilique de Milan, demandant publiquement pardon de ses fautes à l'évêque. Pour la première fois, c'est déterminant, l'Église a plié la vanité du monde devant elle, elle a rappelé que le pouvoir humain devait s'incliner devant le pouvoir de Dieu. Alors certes, en Orient, la chose ne sera pas si simple, mais désormais, en Occident, l'on sait que Dieu l'emporte sur le pouvoir impérial. J'aime à dire que ce soir-là, sans le savoir peut-être, car son attachement à l'Empire était insoupçonnable, Ambroise a ouvert la voie aux monarchies modernes et a permis à l'Europe qui allait naître au siècle suivant de se constituer en royaume, parce que désormais aucun roi ne pourrait plus être un despote. Donc, Ambroise a courbé le pouvoir impérial devant lui, et c'est lui aussi qui va obtenir de Théodose, quelques mois avant sa mort, le 17 janvier 395, qu'il prenne une décision qui sera importante pour le siècle suivant. Depuis le règne de Constantin, pour essayer de protéger un peu les populations contre les dérives du pouvoir, l'on avait nommé, à la demande de l'Église, un dignitaire civil, Defensor Civitatis, défenseur de la cité. Il s'agissait, en quelque sorte, de pouvoir se poser en arbitre entre un haut fonctionnaire local et le peuple oppressé. Cette institution marchait tant bien que mal, et plutôt mal que bien, car rares étaient les dignitaires laïcs qui osaient s'opposer au pouvoir impérial. On le sait parce que déjà à Tours, le seul qui osait parler en faveur du peuple, c'était Martin. Parce que le seul qui osait parler en faveur du peuple à Milan, c'était Ambroise. Et Ambroise dit: « Désormais, Seigneur, demande que le Defensor Civitatis, le défenseur de la cité, ce soit systématiquement et toujours l'évêque. » Alors, cela va changer du tout au tout le visage de la fonction épiscopale en Occident, car désormais, l'évêque n'est plus seulement l'évêque et l'interlocuteur du pouvoir impérial, il en est aussi le contrepoids. Un contrepoids qui va devenir absolument nécessaire lorsque, moins de 15 ans après la mort d'Ambroise, le 4 avril 397, l'Empire romain va subir la grande invasion de décembre 406, cette terrible invasion qui va lâcher sur l'Occident 1,5 million de barbares avec femmes et enfants qui vont se déverser et peu ou prou massacrer sur leur passage tout ce qu'ils vont trouver. Il est à la mode actuellement de nous dire que les invasions barbares furent une chance pour l'Europe. La réalité est que les invasions barbares furent un épouvantable massacre et qu'elles firent reculer la civilisation en l'espace de quelques mois, de 7 à 8 siècles. Toutes les technologies romaines disparurent, emportées dans ce désastre. Seule l'Église allait maintenir la paix et la tranquillité dans ce monde ravagé où les barbares s'étaient répandus comme les sauterelles. Il faut imaginer qu'à la fin de l'année 307, la Belgique, la Rhénanie, la Gaule, l'Espagne ont totalement échappé au contrôle de Rome. Certes, il y a bien ici ou là encore quelques dignitaires en poste, mais il s'agit de gens qui ne peuvent plus rien faire. Alors, on va trouver un artifice juridique pour faire passer la pilule, pour avouer que Rome vient d'abandonner quelques-unes de ses plus belles provinces occidentales, parce qu'il faut simplement protéger l'Italie. La seule pensée de l'empereur Honorius sera de se protéger, lui, que les barbares ne déferlent pas sur l'Italie. Alors, que se passe-t-il ? Ces barbares installés en Espagne, en Gaule, en Belgique, en Rhénanie, ces barbares qu'on ne va plus chasser, on va leur donner un statut officiel, on va dire qu'ils sont des hôtes, qu'ils sont des réfugiés, qu'il faut, à ce titre, les protéger et leur donner des secours. Il est un peu compliqué de demander à des gens dont on vient de brûler tous les biens, de détruire les villes, de ravager les récoltes et quelquefois de massacrer les familles. Il est un peu délicat de leur demander en plus d'apporter des secours, eux qui n'ont plus rien, aux auteurs de ces diverses exactions. C'est pourtant ce qu'il va se passer, car le statut d'hôte prévoit que vous installiez les nouveaux venus chez vous. Quand je dis chez vous, c'est véritablement chez vous. Vous leur cédez une partie de votre maison, le tiers en général, le tiers de vos récoltes, le tiers de votre bétail, le tiers de vos revenus. Et vous ne dites rien, parce que ces gens sont très persuasifs. Ils sont même tellement persuasifs que dans certaines régions, les Burgondes, les futurs bourguignons, qui auront toujours un certain sens des affaires, les Burgondes diront, oui, c'est bien le tiers. Ils ne sont pas les plus méchants, ils sont plutôt sympathiques, les Burgondes. Ils diront, oui, on préférerait les deux tiers. Et on les leur donnera. Et qui va essayer d'empêcher que cela devienne totalement intolérable, cette cohabitation? Eh bien, les évêques, les Defensores Civitatis. Ce sont eux qui réussiront à empêcher ces barbares, qui sont tous ariens, de persécuter la majorité catholique. Ce sont eux qui obtiendront que les populations autochtones soient toujours jugées selon le droit romain, tandis que les barbares continueront à appliquer leur droit germanique. Leur droit germanique tellement matérialiste, tellement intelligent. Tu as tué ma femme. C'est bien ennuyé, j'y étais tout de même attachée. Mais si je te tue, ça ne me la rendra pas. Je peux me remarier, après tout, il y a des consolations. Par contre, pour remplacer ma femme, tu pourrais peut-être me donner 40 esclaves, 30 chevaux et 600 sous d'or. Voilà comment fonctionne le droit germanique. Mais ces Defensores Civitatis, qui sont les évêques, eh bien, ils vont devoir assumer des fonctions assez surprenantes. Prenons le cas de Saint-Germain d'Auxerre, Germain l'Auxerrois, né dans cette ville vers 389, riche propriétaire terrien, qui a fait de brillantes études à Rome, où il s'est marié, où il est devenu avocat. L'empereur Honorius le renvoie en Gaule, dans cette Gaule occupée par les barbares, d'abord comme préfet à Arles, puis comme gouverneur de la Lyonnaise IVe. Nous sommes probablement en 408. Alors, Germain est un haut dignitaire catholique très conventionnel. Mais en 418, il est sacré évêque d'Auxerre à la mort de l'évêque Amator. Je vous ai parlé de la conversion d'Ambroise, il va se passer exactement la même chose avec Germain. Ce chrétien plutôt conventionnel se convertit alors, s'adonne aux plus grandes austérités, vend tous ses biens et les donne aux pauvres, ne se nourrit plus que de pain d'orge et dort à même le sol, sur la cendre. Il bâtit un monastère, comme l'a fait Martin autrefois, il emporte l'habit, il aime y vivre plutôt qu'au palais épiscopal. C'est un exorciste redoutable, mais il n'en reste pas moins. Un dignitaire civil et même militaire, on va le voir même confondre efficacement les deux rôles lorsque le pape Célestin l'enverra avec un autre évêque d'importance, celui de Troyes, Loup qui sort lui du monastère Saint-Honorat aux îles de Lérins. Lorsque Célestin l'enverra en Angleterre afin de combattre le pélagianisme lors de la controverse de Verulamium, autrement dit de Saint-Albans. C'est lors de cette occasion que Germain non seulement réglera la controverse en faveur des catholiques orthodoxes, mais prendra le commandement militaire des troupes bretonnes face aux attaques barbares. Les attaques barbares, oui, je vous disais qu'en 406-407, la grande angoisse d'Honorius avait été de voir les barbares déferler sur l'Italie. Alors il avait pris des précautions. Il avait rappelé toutes les légions qu'il pouvait rappeler. Et d'abord les légions de l'île de Bretagne. Il y avait 3 légions qui gardaient la Bretagne. Honorius les rappelle pour protéger sa propre petite personne. Et bien là, la Bretagne est totalement exposée, il n'y a plus personne pour la défendre. Et bien entendu, les barbares vont s'en donner à cœur joie. Il y aura les Scots qui tous les étés organisent des petits camps de vacances consistant à venir piller sur les côtes. Les Scots, je me permets de vous le rappeler, ce ne sont pas les Écossais, ce sont les Irlandais. Il y aura les Jutes, les Angles, les Saxons qui débarquent de Germanie. Et c'est justement lors d'une attaque des Angles sur cette Bretagne désarmée que Germain se trouve sur les lieux. Et Germain, ce jour-là, se rappelle qu'il est aussi un haut dignitaire civil et il va rassembler les troupes, il va se porter au-devant des Angles et là, il va avoir une idée extravagante. Ses troupes sont très inférieures en nombre, alors il va dire à ses fidèles et à ses soldats, « Chantez l'Alléluia ». Je ne sais pas comment ces braves troupes bretonnes chantaient l'Alléluia. Je crois qu'il vaut peut-être mieux pas le savoir, du moins si on a l'oreille musicale. Le fait est que le résultat est absolument ravageur. L'envahisseur peut être mélomane, saisi d'épouvante, tourne les talons et s'enfuit. Est-ce l'effet miraculeux de l'Alléluia ? Ou est-ce l'effet de la manière dont il fut chanté? Je n'ose trancher. Le fait est que Germain est tout à fait capable d'unir les deux rôles. On vous dira quelquefois, est-il pasteur, est-il administrateur? Il est les deux. Mais nous le verrons se souvenir qu'il est évêque lors d'une des nombreuses révoltes qui secouent la Gaule, ces révoltes des Bagaudes en Armorique, où le préfet du prétoire, c'est alors le grand Aetius, qui sera le futur vainqueur d'Attila au champ catalonique en 451, Aetius voudra lancer sur les rebelles Bagaudes ces supplétifs qui sont ce que la barbarie a fabriqué de pire, et seul Germain aura le courage de dire à Aetius, le dernier des Romains, « Non, Seigneur, ne fais pas ça. Souviens-toi que nous sommes chrétiens. » Donc, nous avons là, avec Germain l'Auxerrois, l'une de ces grandes figures de Defensor Civitatis. Ils peuvent l'être aussi dans des circonstances infiniment plus graves. J'évoquais à l'instant cette victoire d'Aetius au champ catalonique en 451 face à Attila. Il faut se rappeler de ce que fut cette incursion d'Attila en Gaule. Attila est un homme qui a le sens de la communication. Lorsqu'il entre en Gaule, il se porte sur Metz et il fait passer toute la population de Metz qui a osé lui résister au fil de l'épée, femmes, enfants, vieillards et clergés compris. Alors le but d'Attila est très simple, c'est d'épouvanter les gens de sorte que plus personne n'ose lui résister. Et ce sera le cas. Attila déferle sur la Gaule, la plupart des villes lui cèdent, sauf celle où l'évêque est véritablement Defensor Civitatis. Nous avons le cas à Troyes. Je vous ai dit que Germain avait été accompagné en Angleterre, enfin plutôt en Bretagne, par l'évêque de Troyes, Loup. Et c'est ce même Loup qui va oser fermer les portes de Troyes et résister à Attila. Il a raison, puisqu'Attila, qui ne veut pas perdre de temps, voyant que Troyes résiste, va contourner la ville et continuer vers la Loire. Mais arrivé à Orléans, l'évêque d'Orléans, c'est Aignan, se souvient lui aussi qu'il est le défenseur Civitatis, et il ferme les portes de la ville, et il résiste à Attila. Et en ce faisant, Aignan sauve la Gaule. Il la sauve, car il sait pertinemment qu'il faut du temps à Aëtius pour rassembler des renforts suffisants pour se porter au devant d'Attila. En retenant Attila devant Orléans, il donne aux renforts le temps d'arriver. Cela, quelqu'un d'autre le sait, c'est Sainte Geneviève à Paris. Geneviève, fille d'officier, d'un officier barbare, soit dit en passant, elle est moitié gauloise, moitié franque. Geneviève qui convainc les parisiennes, car les hommes n'ont qu'une envie, c'est de prendre la fuite. Geneviève qui convainc les parisiennes de s'enfermer avec elle dans la ville et d'y rester, ce qui obligera leurs maris, fils, frères et pères à en faire autant. Et elle dit, nous fermerons les portes à Attila, il ne viendra pas, et ce n'est pas une question de prophétie. Geneviève sait très bien qu'Attila ne perdra pas de temps devant Paris. Mais oui, c'est la résistance catholique de ces défenseurs civitatis qui empêche le passage des barbares. Alors, il va falloir gérer cette situation de la barbarie. Elle est installée. La prise de Rome par les Visigoths en 410, ce choc invraisemblable, les contemporains ont cru à la fin du monde. Vous connaissez le cri désespéré de Saint Jérôme. Elle est conquise, la ville qui conquit l'univers. Eh bien, cette chute de Rome marque l'entrée en agonie de la civilisation romaine, une agonie qui durera jusqu'en 476, date à laquelle Odoacre, chef barbare, renverra à Constantinople les symboles impériaux, laissant croire par une argutie juridique à la réunification des deux parties de l'Empire, alors même que nous voyons simplement là disparaître l'Empire. Mais cette agonie est bien commencée. Elle est terrible. Et cette génération d'évêques, gallo-romains, hispano-romains, vont se retrouver confrontés à un drame qui durera jusqu'à l'aube du 7e siècle, au moment où Grégoire le Grand comprendra qu'il va falloir effectivement, une fois pour toutes, liquider l'héritage de l'Empire, que l'Empire est mort et qu'il ne ressuscitera pas. Eh bien, ces évêques gallo-romains vont se trouver confrontés à cette situation. Après l'assassinat d'Aëtius en 453, il n'y a plus eu personne pour maintenir la paix en Gaule. Chaque peuple barbare a tiré à soi le morceau du gâteau qui l'intéressait. Il faut imaginer cette Gaule morcelée au nord, les Francs, qui sont descendus maintenant jusqu'à Soissons, de la Bourgogne jusqu'à la Provence, et occupant également la Suisse, les Burgondes, qui sont pourtant les plus civilisés. Dans une partie de la Provence actuelle, les Ostrogoths, et, oh malheur, dans tout le sud-ouest et désormais en Espagne, un sud-ouest qui s'étend de la frontière espagnole jusqu'à la Loire, les Visigoths. Ces Visigoths qui, en 410, se sont emparés de Rome. Ces Visigoths qui s'étant emparés de Rome ont emmené captive la propre sœur d'Honorius, la jeune Galla Placidia, 16 ans, la fille qu'il avait tue, que Théodose avait tue avec la fille de Valentinien Ier, la jeune et belle Galla Valentiniana. Eh bien, non seulement le nouveau chef Visigoth, Ataulf, puisque le vainqueur de Rome, Alaric, n'a pas survécu à sa victoire, non seulement Ataulf s'offre le luxe d'emmener captive Galla Placidia et d'obtenir de son frère qu'il lui accorde sa main. Ataulf va pouvoir dire qu'il est le beau-frère de l'empereur, imaginez cela. Mais en cadeau de noces, il va exiger non plus l'Illyrie que les Visigoths occupaient déjà, mais l'Aquitaine. Donne-moi l'Aquitaine, Seigneur, c'est bien la moindre des choses que tu offres une petite dot à ta sœur. Et toute l'Aquitaine est occupée par les Visigoths, puis l'Espagne. Et les Visigoths, ils sont à rien, ils sont épouvantablement à rien. Jusqu'en 453, jusqu'à la mort d'Ecius, on arrive à les empêcher de manifester à quel point ils sont à rien et de persécuter. Mais quand Ecius n'est plus là, il n'y a plus personne pour les empêcher de persécuter les catholiques. Le roi des Visigoths à l'époque s'appelle Euric, forme locale d'Éric, et c'est un non seulement un persécuteur, mais c'est un conquérant. Il ne va pas se contenter de l'Aquitaine. Très vite, il va occuper l'Auvergne. Il va s'emparer de Tours. Tours, la ville sainte des Gaules, le tombeau de Saint-Martin. Comment Tours a-t-elle pu tomber au pouvoir des Ariens ? Ariens ne semble plus capable de l'arrêter. Ce qui reste de la catholicité gauloise, ce que l'on appelle la Romagna, une misérable enclave dont les limites correspondent à peu près, elle commence à... Il ne faut pas oublier que l'Armorique a repris son indépendance, les réfugiés bretons s'y sont installés, l'Armorique est indépendante. Donc la Romagna, c'est une enclave qui couvre le bassin parisien, la Beauce, petite partie de la Touraine, l'Anjou, partie de la Normandie. Ce n'est rien, la Romagna. Un jour ou l'autre, elle va être absorbée, et elle sera absorbée, à coup sûr, par les Ariens. Et si la Romagna disparaît, alors que l'Italie est occupée par les Ostrogoths, Ariens eux aussi, que même Rome est au pouvoir des Ostrogoths, que restera-t-il dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans? Que restera-t-il de la catholicité? Le catholicisme disparaîtra-t-il d'Occident? Eh bien, ce sont les évêques gaulois, ce sont les Defensores Civitatis qui vont l'empêcher. Il y a à l'époque, sur le siège épiscopal de Reims, un très jeune évêque. Je dis très jeune, car Rémy a été sacré évêque à 17 ans. Nous sommes d'accord qu'en droit canonique, la chose est surprenante. Mais pas plus que le fait que saint Ambroise ait été dans la même journée baptisé, ordonné prêtre et sacré évêque. Ce qui poserait aujourd'hui quelques difficultés. Donc Rémy, contrairement aux lois de l'Église et de l'Empire qui interdisent un sacre épiscopal avant l'âge de 40 ans, loi jamais respectée, Rémy est évêque à 16 ans. Il le restera jusqu'à l'âge avancé de 96. Belle carrière épiscopale. Et Rémy, riche propriétaire terrien, possédant de beaux vignobles champenois, Rémy ne veut absolument pas laisser la catholicité disparaître. Il a compris, lui, pour employer sa formule, que ce qui sauvera la catholicité, c'est un second Constantin. Encore faut-il le trouver, ce second Constantin. Alors, à la conférence épiscopale gauloise, deux écoles s'affrontent, deux partis. L'un dirigé par l'évêque de Vienne, dans l'Isère, qui s'appelle Avitus. Avitus dit « Nous n'avons pas de prince catholique, il faut donc nous en fabriquer un. » Et le plus simple serait de marier une bonne catholique, une jeune fille pieuse, c'est la politique de la nouvelle Esther, de marier une jeune fille pieuse avec l'un de ces épouvantables sauvages hérétiques. Si nous trouvons une jeune fille pieuse qui se dévoue, eh bien nous exigerons, elle exigera, que ses enfants soient baptisés dans la foi catholique d'ici 25-30 ans. Nous aurons des princes catholiques et tout ira bien. Nous avons le temps. Avitus est un optimiste. De son côté, Rémy dit « Moi, je ne pense pas que nous ayons 25 ans devant nous. Si tu attends que ta bonne catholique ait converti son mari ou qu'elle ait eu des enfants, qu'ils aient vécu, qu'ils aient grandi, qu'ils aient été baptisés, nous prenons des risques insensés. Il faut trouver un adulte. Mais où veux-tu le trouver ?» Et on attend, on cherche. Alors lui, Rémy, il a son candidat. Quelques années plus tôt, Peuplade, peuplade barbare parmi d'autres que jusque-là les Romains avaient cantonnés comme colons loin au nord en Batavie, les Pays-Bas actuels, a trouvé que la Batavie n'était pas un séjour très agréable. Elle est descendue, elle a d'abord occupé la Belgique, puis elle a quitté la Belgique et elle s'est répandue dans le nord de la Gaule. Et maintenant, elle est installée à Soissons et à Reims. Ce sont les Francs saliens. Et Rémy est en excellent terme avec leur chef, on dit leur roi. Il faut comprendre que ça désigne, dans le vocabulaire de l'époque, c'est l'équivalent germanique du doux. Ce n'est jamais qu'un chef de guerre. Et Rémy est en très bon terme avec ce doux qui se proclame roi des Francs, qui s'appelle Chilpéric. Et Chilpéric est un homme de 30 ans sonné, c'est un bon officier. Il se dit, si je convertis Chilpéric, eh bien nous aurons notre chef de guerre catholique. Il a de bons soldats, nous résisterons à la pression des Visigoths en Aquitaine. L'ennui, c'est que Chilpéric n'a pas du tout envie de se convertir. Pas du tout, ça ne l'attire pas. Alors, il faut se rabattre sur la politique d'Avitus. Son Esther, ah, il l'a trouvée, son Esther, une jeune fille d'une bonne famille lyonnaise, qu'il a mariée à l'un des fils du roi Burgonde. Le roi Burgonde s'appelle Gondebaud, et il a été très content de. Après tout, ça apaise. Il est pour la politique des mariages mixtes. Tout ira mieux s'il y a des mariages mixtes. Il a donc accepté que deux de ses fils épousent des jeunes catholiques. Et il a même accepté, dans sa grande bonté d'âme, que leurs enfants soient baptisés. Ce fils qui a épousé une catholique règne sur Lyon après la mort de son père. Lui s'appelle non pas Chilpéric, mais Childéric. Et Childéric, eh bien, première catastrophe, il ne va avoir que des filles. Ça tombe mal. Côté chef de guerre, c'est raté. Alors, on pourrait espérer que ça dure un peu, mais malheureusement, à la mort de son père, l'un de ses frères, un gentil garçon, s'est dit, le problème du droit germanique, voyez-vous, c'est que ce n'était pas fait pour la sédentarisation. Parce que, à la mort du père, systématiquement, vous partagez l'héritage en autant de parts qu'il y a de fils. Comme les familles sont nombreuses, ça fait beaucoup de fils en général. Alors ça allait quand vous partagez de l'argent, des chevaux, du butin, des esclaves, vous pouvez aller. Mais maintenant, eh bien, vous êtes installé, vous avez des terres, vous vous êtes taillé un joli royaume sur le dos des autres. Et le royaume Burgonde est très joli, je vous ai dit, depuis Auxerre jusqu'à Genève et toute la vallée du Rhône. Mais ça va tant vous régnez sur cette jolie partie, mais si vous êtes quatre et qu'il faut couper le gâteau en quatre, eh bien ça devient moins intéressant. C'est exactement ce que dit le fils aîné, qui se retrouve cantonné dans sa région d'Auxerre. Il se dit, pourquoi est-ce que j'ai partagé avec mes frères? C'est quand même dommage, c'était mieux du temps de papa, j'aurais dû tout garder pour moi. Et à part son tout petit frère, le plus jeune, qu'il a envoyé à Genève, apparemment il aime bien son petit frère, il se dit, moi celui-là je l'aime bien, puis Genève c'est loin, donc je vais le laisser tranquille. Il se dit, je vais liquider mes deux autres frères, je vais remettre la main sur la région lyonnaise, qui appartient à Childéric, et sur la région du Morvan que j'ai donnée à l'autre. Et une nuit, il va envoyer des hommes de confiance, sa garde d'honneur, c'est l'Eude. Il va dire, voyez gentil, vous allez chez mes frères, comme je veux être sûr que vous avez fait le travail, vous me rapportez leur tête par précaution. D'ailleurs, quand on les lui rapportera, il ouvrira, il dira, ah, mon pauvre frère, comme c'est triste. Au fond, je l'aimais bien. C'est un peu tard. Donc Childéric va se retrouver assassiné, et sa femme aussi. Fin de la tentative des princes chrétiens. Vous allez me dire, et les filles? Et oui, il y a deux petites filles. Eh bien, leur oncle, qui est gentil, se dit tout de même, sont des enfants. Ils n'osent pas tuer ses nièces. Il va les confier à leur grand-mère gallo-romaine, qui s'est retirée dans un couvent, qui va prendre les deux petites avec elle et va les installer avec elle pour les élever dans ce couvent. Alors, je passe sur l'aînée qui ne le quittera plus. Elle a été profondément traumatisée par l'assassinat de ses parents. Mais la seconde porte un très joli prénom germanique. Elle s'appelle Krochtschild. Alors, heureusement, dans les familles gallo-romaines, on a tendance à adoucir ce joli prénom. Donc, on l'appelle Clotilde. c'est nettement plus euphonique. Et donc, Clotilde est là, dans son couvent, où elle grandit, dont elle ne devrait normalement plus sortir. Et les années passent. Voilà qu'en 480, et bien après l'échec de la politique des enfants chrétiens, c'est l'échec de la politique du prince chrétien qui échoue, car Chilpéric, que Rémi espérait toujours convertir, Chilpéric meurt bêtement et prématurément à l'âge de 40 ans. Il laisse un fils, 3 filles et un fils quand même, un fils de 15 ans. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux parce que le droit germanique prévoit que la couronne ne passe pas au fils aîné, s'il n'a pas l'âge de régner, elle passe à ses parents masculins les plus proches. Et les parents masculins, dans ces cas-là, se disent « inutile de rendre la couronne dans quelques années, supprimons notre neveu ou notre cousin ». Donc autant dire que l'espérance de survie de ce garçon de 15 ans, qui répond au doux prénom de Colcordig, que nous adoucirons en Clovis, autant dire que là, les chances de survie de ce garçon sont tout de même assez limitées. Il est intelligent, il est brillant, mais son espérance de vie est peu prometteuse. C'est alors que Rémi va s'en mêler. Il va lui écrire, il va écrire à ce gamin de 15 ans, c'est une très belle lettre d'une grande intelligence. Une grande rumeur est arrivée jusqu'à nous. On dit que tu viens de prendre en main l'administration de la Belgique seconde. Ce n'est pas une nouveauté. Tu es ce que tes pères ont été. Tu dois veiller d'abord à ce que ton mérite se maintienne au sommet où l'a porté ton humilité. Je souris doucement parce que l'humilité de Clovis ne sera jamais son trait dominant. Car selon le proverbe, les actes des hommes se jugent à leur fin. Tu dois t'entourer de conseillers qui puissent te faire honneur. Pratique le bien. Sois chaste et honnête. Montre-toi plein de déférence envers les évêques. Et recours toujours à leurs avis. C'est bien de dire ça à un petit païen de 15 ans. Et si tu t'entends avec eux, ton pays s'en portera bien. Oh, comme il sait bien manier la carotte et le bâton, Saint-Rémy. Tu t'en porteras bien parce que du haut de tes 15 ans, moi, je vais t'aider et que j'ai nettement plus de relations que toi. Ton pays s'en portera bien. Encourage ton peuple. Relève les affligés. Protège les veuves. Nourris les faibles. C'est une politique chrétienne qu'il prêche à ce jeune garçon parfaitement païen. Que tout le monde t'aime et te craigne. Que la voix de la justice se fasse entendre par ta bouche. N'attends rien des pauvres ni des étrangers. Ne te laisse pas offrir de présents par eux. Que ton tribunal soit accessible à tous. Que nul ne te quitte avec la tristesse de n'avoir pas été entendu. Avec ce que ton père t'a légué de richesse, rachète les captifs. Délivre-les du joug de la servitude. Si quelqu'un est admis en ta présence, qu'il ne s'y sente pas étranger, amuse-toi avec les jeunes gens, délibère avec les hommes d'âge. Et si tu veux régner, montre-t'en digne. Alors, c'est très intéressant cette lettre, je vous l'ai dit, parce que c'est un programme chrétien, dictée à un jeune homme de 15 ans, païen, c'est bien ce qui intéresse Rémi. À la différence des autres peuples barbares, les Francs n'ont jamais été convertis à l'arianisme, ils sont restés païens. Or, Rémi est convaincu qu'il est plus facile de convertir un païen que d'arracher un arien à ses erreurs. Mais au-delà de la promesse qu'il fait à Clovis de le protéger contre ses ennemis, il en fait une autre qui, d'un point de vue moral, est infiniment plus cynique. Je vous ai dit qu'il restait une enclave romaine, une enclave catholique agonisante. Cette enclave a un chef, un maître de la milice, qui s'appelle Siagrius. Siagrius est un bon catholique, c'est un garçon dévoué, mais militairement parlant, il n'est pas remarquablement doué. Alors, la conférence épiscopale, sans état d'âme, va sacrifier Siagrius et tout miser sur Clovis. Lorsque Clovis va décider d'annexer la Romagna, on le laissera faire. et même on l'y encouragera. Et lorsqu'il fera décapiter l'infortuné Syagrius, on ne dira absolument rien. Que pèse Syagrius face à la survie de la catholicité? Désormais, Clovis règne sur son royaume, mais aussi sur la Romagna, c'est-à-dire sur pratiquement toute la Gaule au-delà de la Loire. Ce qui nous intéresse, c'est l'autre partie, ce qui intéresse les évêques. C'est convertir les Ariens, reconquérir la Burgondie, reconquérir l'Aquitaine. Alors, Clovis, il a dit merci pour le cadeau qu'on lui avait fait. Vous connaissez l'épisode du vase de Soissons. L'évêque qui avait réclamé ce calice précieux, ce n'est pas un vase, c'est un calice. Et ce guerrier qui a osé détruire le calice en criant au roi qui le réclamait, « Tu n'auras que ta propre part du butin. » Clovis lui fera payer cher l'année suivante. Oui, Clovis ménage l'épiscopat catholique, mais il ne se convertit pas. Il ne se convertit pas car il ne sent aucune attirance pour le catholicisme et parce qu'il sait qu'il serait difficile de faire comprendre à ses guerriers pourquoi il se convertit. Alors il est aimable, très aimable avec l'épiscopat et le clergé, mais il reste païen. Et c'est alors qu'en 491, Clovis a 27 ans, eh bien, il va perdre son épouse, car Clovis est marié. Il a épousé une princesse franque de Cologne, probablement l'une de ses lointaines cousines. Il l'a épousée, évidemment, dans le rite païen, c'est pourquoi l'Église ne nommera jamais cette jeune femme. Et voilà qu'elle meurt. Clovis a 27 ans, il n'a pas l'intention de rester seul, et c'est là que Rémy intervient et lui dit « Tu es veuf, je pourrais te trouver un beau parti. » Je peux te trouver une princesse, une vraie princesse, belle, charmante, un beau mariage comme tu en mérites. Ah oui, dit Clovis, bon, je veux bien voir. Quel est le défaut de la fille? Elle est catholique. Ah, dit Clovis, qu'est-ce que tu me demandes en échange? Et si tu l'épouses, eh bien tu... Vous baptiserez les enfants dans la foi catholique, n'est-ce pas? Oh, dit Clovis, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir. À qui pense-t-il, Rémy? Eh bien, à marier les deux parties, les deux plans, celui d'Avitus de Vienne et le sien, on va sortir Clotilde de son couvent. Il faut un certain courage tout de même. Penser que Clotilde, elle a vu assassiner sa mère qui avait accepté de jouer ce rôle de nouvelle Esther. Rien ne la garantit qu'elle ne subisse pas le même sort. Alors cette jeune fille, elle, en fait, on l'a confiée maintenant à l'un de ses oncles, celui le survivant de la tuerie familiale, celui qui est à Genève. Et c'est là que Rémy va lui envoyer un émissaire lui disant « Est-ce que tu épouserais un beau jeune homme, roi de surcroît, tout à fait charmant, qui s'appelle Clovis, dont le seul défaut, il faut bien qu'il en ait un, le prince charmant, c'est qu'il est païen. » Clotilde dit « Oui, j'accepte de l'épouser. » Alors Rémy revient voir Clovis, il lui dit « Voyez, l'affaire est arrangée, il suffit que tu envoies un messager là-bas pour demander la main de la princesse Clotilde à son oncle. » Rémy se dit « Tu es sûr qu'elle est jolie? Oh, elle est magnifique! Tu ne peux pas savoir comme elle est belle. » Clovis est méfiant, il se dit « Il est évêque, qu'est-ce qu'il y connaît ?» Il s'adresse à son meilleur ami, qui s'appelle Aurélien, qui est un dignitaire gallo-romain, il lui dit tu pourrais aller faire un tour à Genève. Il paraît que la fille va à la messe tous les matins. Tu te restes à la sortie de l'église et t'essayes de voir à quoi elle ressemble. Alors, tout de même, comme je ne veux pas que ce soit officiel, essaye d'être discret. Alors, il dit au cas où elle serait aussi jolie que le dit Rémy, tiens, voilà une bague. Tu la lui donnes. Si elle est laide à tomber, tu disparais, personne ne t'a vu. Hein. Puis tu rentres me dire que franchement, elle n'est pas épousable. Donc Aurélien s'en va à Genève, il se déguise en mendiant, il ne fait pas les choses à moitié. Il est là devant la porte de l'église où Clotilde va tous les matins. La charité pour un pauvre mendiant. Et la princesse qui est bonne et charitable s'arrête. Elle lui donne l'aumône, il la regarde. Rémi n'a pas menti, elle est très belle. Alors il sort, le mendiant sort la bague de sa poche et lui dit « Je suis l'émissaire du roi des Francs. » Clotilde parvient à ne pas paraître surprise et lui dit « Oui, une ambassade va partir demander officiellement ta main à ton oncle. » Mais Clotilde lui dit « Oui, je connais mon oncle, il va dire oui, mais il ne me laissera jamais partir. » « Et pourquoi ne te laissera-t-il jamais partir ?» dit Aurélien. Et elle lui dit-elle « Tout simplement parce que je ne suis qu'une fille, donc je ne peux pas régner. Mais il n'empêche que je suis l'héritière du royaume de mon père. Je ne peux pas le revendiquer pour moi, mais je peux le revendiquer pour mon mari et pour mes fils. Et à ce titre, jamais mon oncle ne me laissera me marier. Comme il a peur de Clovis, il n'osera pas lui dire non en face, mais il ne me laissera jamais partir. Il n'y a qu'une seule solution. Enlève-moi. » C'est ce que va faire Aurélien. Nous avons une scène invraisemblable où ils partent tous les deux à cheval. Heureusement que Clotilde est une redoutable cavalière. Et ils arrivent à gagner la frontière des royaumes de Clovis avant que le cher oncle assassin ait réussi à comprendre de quoi il s'agissait. Alors, nous connaissons la suite. Magnifique mariage à Soissons, mariage catholique. Magnifique dot accordé à Clotilde. Et Clovis consent au baptême de leurs enfants. Le premier qui naît l'année suivante est un garçon, joie et bonheur. Clotilde, qui exige le baptême de son fils, l'obtient, mais 48 heures après le baptême, le bébé tombe malade et il meurt. Clovis est désespéré. Il a déjà un fils de son premier lit, Thierry. Et il est là, auprès du bébé mourant, il n'arrête pas de répéter à Clotilde « C'est ta faute, si tu ne l'avais pas fait baptiser, il serait comme son frère, en pleine santé. J'ai toujours dit que ton Christ était un Dieu pour les faibles, qu'attendre d'un Dieu qui a laissé crucifier son propre fils. Si je l'avais consacré à mes dieux du Valhalla, mes dieux guerriers, mon fils serait en bonne santé, il ne serait pas en train de mourir. » Clotilde lui dit « C'est la volonté de Dieu et quand je devrais avoir 30 enfants et les perdre l'un après l'autre, je les ferai tous baptiser. » Clovis lui dit « Tu es folle, alliée, et puisque j'ai juré, j'ai juré. » Et l'année suivante, Clotilde met au monde un second garçon qu'elle prénomme Clodomir. Elle lui fait donner le baptême. Et le lendemain du baptême, Clodomir tombe malade. Clovis, désespéré, dit « Il ne peut lui arriver que ce qui est arrivé à son frère. Ton Dieu est impuissant, elle est protégée. » Mais Clotilde prie si désespérément que Clodomir guérit. Vous pourriez penser que ça va convertir son père, mais pas du tout, il a l'esprit de contradiction. « Comment veux-tu que je fasse confiance à un Dieu qui s'occupe d'histoires de bébés et de nourrices ? Ce n'est pas un Dieu pour des guerriers, il est tout juste bon pour la chambre d'enfants. » « Je ne me convertirai pas. » Alors, Clotilde laisse dire, et voilà qu'en 496, le premier beau-père de Clovis, le père de sa première femme, le roi de Cologne, a des gros soucis. Il est attaqué par les Alamans, et il a besoin de secours, et il appelle son gendre au secours. Clovis se précipite avec ses guerriers. Et là, on est au mois de juillet 496, les choses se passent très mal. Un violent orage éclate et la plaine autour de Tolbiac, aux portes de Cologne, est inondée. Clovis n'arrive plus à faire manœuvrer sa cavalerie. Il est littéralement encerclé. Les Alamans sont sûrs de la victoire. La défaite est inévitable, et après la défaite, le massacre, Clovis se voit mort, il connaît les joyeuses coutumes familiales, il se dit « Non seulement je vais y rester, mais quand la nouvelle arrivera à Reims et à Soissons, ma femme et mes enfants vont être massacrés. » Et ce qu'il ne ferait pas pour lui, il va le faire pour sa femme et ses enfants. Et il se souvient de tout ce que Clotilde n'a cessé de lui dire depuis 5 ans qu'ils sont mariés. Vos idoles sont des morceaux de pierre et de bois sourdes, aveugles, elles n'entendent pas ce que vous leur dites. Seul mon Dieu a le pouvoir d'exaucer les prières. Alors jusque-là, Clovis n'y a jamais cru. Mais sur le champ de bataille de Tolbiac, il a appelé à l'aide tous les dieux du Valhalla, il a appelé Thor, il a appelé Odin. Manifestement, ils sont sourds, ou bien ils sont sourds, ou bien ils se sont laissés circonvenir par les braves alamans. On ne sait jamais si c'est à celui avec les dieux du Valhalla, c'est à celui qui aura payé le plus cher. Donc, il commence à être extrêmement inquiet, et devant la gravité de la situation, Clovis s'écrie, « Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai chrétien. » Et à ce moment-là, l'impossible survient. Alors que les Francs vont être absolument submergés par la vague des assaillants alamans, un archer dans leur rang décoche une dernière flèche qui va se planter droit dans la gorge du roi des alamans, qui tombe de cheval, raide mort, et voyant leur roi à terre, les alamans saisis de panique, fuient, et Clovis n'a plus qu'à les pourchasser, il remporte la victoire. Et comme il est honnête, il va effectivement immédiatement faire convoquer l'évêque le plus proche, un autre défenseur civitatis, celui-là s'appelle Saint-Va, c'est Saint-Gaston si vous préférez. Saint-Va Gaston va arriver, il va catéchiser Clovis, tout de même il pourrait lui donner le baptême quasiment tout de suite, mais non. Il ne veut pas frustrer Rémy et Clotilde de leur victoire. On va donc attendre le soir de Noël. Alors me direz-vous, pourquoi le soir de Noël? On sait bien que le baptême ne se donne en principe qu'à la vigile pascale. Eh bien, parce que c'est la victoire du catholicisme que ce baptême de Clovis. Or, qu'est-ce qui se trouve à la base de l'hérésie arienne? C'est cette négation de la divinité du Christ, de sa filiation divine. En célébrant le baptême de Clovis le soir de la nativité, eh bien, l'on souligne que le catholicisme l'emporte sur l'arianisme. Nous avons ce magnifique baptême de Clovis et nous avons cette lettre de l'évêque Avitus qui, apprenant la nouvelle, lui écrit: laissez les partisans de l'hérésie et du schisme exhaler leurs vaines plaintes. Seigneur, votre choix règle le jugement des autres. La foi que vous avez confessée est notre victoire. La plupart de ceux que nous pressons d'embrasser cette foi sainte de Jésus-Christ ne manquent jamais de nous opposer les traditions et les coutumes de leurs pères. Un respect malentendu pour les coutumes des aïeux leur ferme les portes du salut et les retient dans l'infidélité. Mais après l'éclatant miracle dont nous venons d'être témoins, tous les scrupules de ce genre doivent disparaître. Vous n'avez voulu tenir des rois vos aïeux que la noblesse du sang. Tout le reste de ce qui fait la noblesse d'un grand prince vient de vous et rejaillira sur vos pères. S'ils ont fait de grandes choses, vous en avez fait de plus grandes encore. Ils vous ont appris à régner sur la terre. Vous apprendrez à vos descendants à régner dans le ciel. Une nouvelle lumière éclate pour nous dans la personne d'un roi d'Occident. Elle a éclaté cette lumière le jour où nous célébrions la nativité de notre Rédempteur. Donc la Noël du Seigneur est aussi la Noël des Francs. Votre sainteté fera désormais plus pour vous que votre haute fortune n'a encore réalisé. Je ne puis former qu'un seul vœu pour vous, grand prince, c'est que non content de conquérir à Jésus-Christ votre nation tout entière, vous puissiez étendre ce bienfait aux peuples encore idolâtres de la Germanie. Ne dédaignez pas de leur envoyer à ce sujet des ambassadeurs et de contribuer à l'extension du règne de Dieu qui a tant glorifié le vôtre. Vos sujets ne sont pas les seuls à y prendre part. Votre prospérité nous touche nous-mêmes et nous sommes réellement vainqueurs chaque fois que vous combattez. Pourquoi les évêques et les catholiques sont-ils réellement vainqueurs chaque fois que Clovis combat ? Pour une très simple raison, c'est que sa mission ne fait que commencer. Il s'agit maintenant de réunifier la Gaule autour de lui et d'anéantir l'arianisme en Gaule. Clovis comprend le message. La première chose qu'il fait, c'est de revendiquer, comme on pouvait s'y attendre, la dot de sa femme. Gondebaud, extrêmement inquiet, préfère se convertir au catholicisme avant que son gentil nouveau neveu vienne l'assassiner pour récupérer la dot de sa femme. Il ne fait que reculer pour mieux sauter. Gondebaud sauvera sa tête, mais ce ne sera pas le cas de ses fils et de ses petits-fils. Les gentils enfants de Clovis et de Clotilde régleront leur compte à leur cousin Burgonde. La Burgondie est convertie. Bonne nouvelle. La Gaule recommence à ressembler à un pays catholique. Mais là-bas, de l'autre côté de la Loire, il y a l'Aquitaine. Clovis devrait partir combattre les Visigoths. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce que Geneviève a fini par lui ouvrir les portes de Paris. C'est un rêve qu'il nourrissait depuis qu'il était petit garçon. Il avait envie de s'installer dans le palais impérial de Paris, le palais de l'empereur Julien, de l'empereur Gratien, de se sentir empereur à la place de l'empereur. Et tant qu'il était païen, Geneviève lui disait systématiquement non. Elle lui avait fermé la porte à double tour. Ça le vexait beaucoup. Il se souvenait, quand il était petit garçon, il sautait sur les genoux de Geneviève qui le bourrait de gâteaux et de sucreries. Et là, maintenant qu'il lui demande un sérieux, Geneviève ne veut plus lui donner de sucreries. Elle ferme la porte de Paris. Mais maintenant qu'il est catholique, Geneviève est très gentille. Elle rouvre la porte et elle lui dit « Viens, mon enfant, je suis heureuse de te revoir. » Et elle recommence à le bourrer de sucreries. Donc, il se sent très très bien à Paris, Clovis. Il n'a aucune envie d'aller combattre en Aquitaine. Mais voilà qu'à l'automne 505, alors qu'il n'a tout de même que 40 ans, mais c'est la date à laquelle son père est mort, Clovis tombe très malade. Les évêques autour de lui sont là et disent « Seigneur, tu l'as bien cherché. » Nous t'avons aidé, le ciel t'a aidé, le ciel t'a comblé de bienfaits. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es là dans ton palais de Paris. Alors c'est vrai, tu as été gentil, tu as construit des églises, tu as fait beaucoup pour nous, tu as bâti des couvents, mais, tu n'es pas allé nous débarrasser des Visigoths et des Ariens. En fait, tu es assez décevant. Et c'est ce que le ciel veut te dire. Tu es malade parce que tu n'as pas réussi à nous débarrasser des Ariens. Clovis, il dit, je ne sens pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir? Il faut promettre d'aller faire la guerre en Aquitaine. Ça tombe bien, Éric, le terrible Éric, est mort. Et son fils, qui s'appelle Alaric II, eh bien, il n'est pas très doué, Alaric. Ça devrait déjà simplifier les choses. Alors Rémi fait venir un célèbre thaumaturge, c'est un abbé qui vit en Suisse s'appelle Séverin. Et Séverin impose les mains à Clovis qui guérit. Bon, il dit, maintenant que tu es guéri, tu tiens ta promesse, le printemps arrive, tu pars de débarrasser les Visigoths. Chose promise, chose due. Clovis part, on est au mois de mars, il fait mauvais, en plus c'est un printemps pourri. Il fait froid, il pleut. Quand il arrive à Tours, il arrive à reprendre Tours, c'est déjà une bonne chose, les Visigoths ne l'ont pas attendu. Je dis, Alaric n'est pas très, très bon combattant, il a préféré se replier vers Poitiers. Donc, Clovis entre à Tours, sans coup férir, il est très content, il va remercier Saint-Martin qu'il vient de délivrer si facilement la basilique. Et puis, il pleut toujours, il faut continuer, on ne peut pas s'arrêter à Tours, c'est pas mal d'avoir repris Tours, non ? Oh non, Seigneur, tu dois nous débarrasser, il faut que tu ailles jusqu'à Toulouse, jusqu'à leur capitale, que tu nous débarrasses d'eux. Ils arrivent au bord de la Vienne, la Clovis dit, oui, mais vous voyez, la rivière est en crue, je ne peux pas passer, c'est pas ma faute, le ciel est contre moi. Et à ce moment-là, toute l'armée est témoin d'un prodigieux miracle, une biche sort des bois et traverse la Vienne à gué devant toute l'armée, parce qu'il y a là un passage. Et les évêques disent, tu vois, c'est facile de passer, tu peux même quasiment passer à pied sec, une biche l'a fait. Non, on y va, puisqu'il faut y aller. Ils y vont. Et là, ils arrivent devant Poitiers, la nuit tombe, il se passe quelque chose de sidérant au-dessus de la ville de Poitiers. Il y a des... Aujourd'hui, vous voyez, on voit ce genre de choses au-dessus des boîtes de nuit. La nuit, vous savez, ça tourne avec des lumières de couleur. Vous voyez de quoi je parle. Seulement, à l'époque, ce n'est pas censé exister. Mais c'est exactement le genre de spectacle son et lumière qui tourne autour des tours de la cathédrale de Poitiers. Les Ariens ne se sentent pas très bien. Qu'est-ce que c'est ces lumières sur la cathédrale? Et les francs disent que c'est l'intervention divine. Et le lendemain, dans la plaine de Vouillé, eh bien, les francs vont écraser les armées wisigothes qui vont prendre la fuite. Le roi est tué, une fois de plus, c'est une manie. Une fois qu'on a tué le roi, les autres s'en vont. Et ils vont juste sauver le fils de leur roi, qui est un gamin de 10 ans. Ils vont galoper jusqu'à Toulouse sans s'arrêter. Ils sont tellement pressés de fuir jusque dans la partie espagnole qu'ils contrôlent, puisqu'ils se sont emparés de l'Espagne également. Ils sont tellement pressés de fuir et de mettre leur petit roi à l'abri qu'ils ne vont même pas penser à sauver le trésor des Wisigoths, le prodigieux trésor qu'ils avaient emporté de Rome en 410. Ce trésor qui contenait, dit-on, entre autres, l'arche d'alliance emportée du temple de Jérusalem par Titus. Le trésor disparaîtra sans laisser de traces. C'est la fameuse légende de l'or de Toulouse qui fera tellement fantasmer encore de nos jours. Il fuit, il gagne l'Espagne, se retranche dans leur royaume de Tolède. Pendant ce temps-là, Clovis arrive, maintenant c'est une promenade de santé, il entre dans Toulouse, il est accueilli par des cris de joie. Et là, eh bien, je vous ai dit, les Wisigoths ont fui tellement vite qu'ils ont oublié d'emmener leur famille. Il y a toujours les familles wisigothes qui sont là. Population gauloise, catholique, avec une rare charité, dit à Clovis, débarrasse-nous de ces gens-là. Alors Clovis est catholique quand même, il n'a pas massacré ces pauvres gens. Il va leur dire, prenez ce que vous pouvez emporter et allez-vous-en. Partez, allez en Espagne. Je vous l'ai dit, le printemps est particulièrement pourri. Ces pauvres gens vont quitter Toulouse avec leurs baluchons, traînant les vieillards, les enfants, les femmes, à pied, parce qu'ils ne peuvent pas emporter de voiture pour passer les cols des Pyrénées. 80% d'entre eux n'arriveront jamais en Espagne, ils vont mourir de froid dans les cols des Pyrénées. Mais ça, les Wisigoths ne le pardonneront jamais aux Francs. Mais Clovis, eh bien, maintenant, il a réunifié la Gaule, il l'a réunifié de manière catholique. On lui passera tout désormais, y compris la manière charmante dont il va trucider toute sa famille afin d'assurer la couronne à ses propres fils. Et c'est la première faille dans ce rôle des évêques défenseurs de la cité. Il ne faut pas fermer les yeux sur les péchés des grands. Souvenez-vous de la lettre d'Ambroise. « Tu n'es qu'un homme, le péché est venu, chasse-le. » Cela, les évêques gaulois, même Rémy, n'oseront pas le dire à Clovis. En juillet 511, Clovis réunit un synode à Orléans, regroupant pour la première fois 30 évêques du nord et du sud de la Gaule. C'est en quelque sorte la manifestation de l'union du trône et de l'autel qui fondera le royaume de France. L'Église des Gaules, comme elle était d'ailleurs déjà avant elle le clergé druidique, est désormais exemptée d'impôts. Le droit d'asile s'applique à l'ensemble des biens d'Église et plus simplement à l'intérieur des sanctuaires. Clovis fait interdire le nicolaïsme, la bibliomancie et les autres pratiques divinatoires. Alors je souris en pensant à la bibliomancie qui consiste, comme vous le savez, à ouvrir la Bible au hasard pour y lire l'avenir. Car dans sa propre famille, on pratiquera énormément la bibliomancie et jusque sous le nez de l'archevêque de Tours. En vérité, c'est une véritable restauration de l'Église. Il était temps qu'elle se produise, car le 27 novembre 511, Clovis meurt à l'âge de 45 ans. Alors, avec cet affermissement du pouvoir royal, cette éradication de la menace arienne et gothique dans les Gaules, l'ère des grands évêques se termine. Le pouvoir civil, désormais incarné par des rois, désormais catholiques de nom plus que de fait, puisque nous verrons les fils de Clovis tenter de s'entretuer, entretuer leur famille et surtout pratiquer une polygamie à tout va dont personne n'osera les corriger. Eh bien, ce pouvoir désormais n'entend plus s'en laisser compter par l'Église. Après la mort de Clovis en 511, Rémy, qui survivra tout de même jusqu'en 534, se retrouvera de plus en plus incarné, isolé au sein de l'épiscopat, où il incarne des vues dépassées. Isolé pourquoi? Eh bien parce que les fils de Clovis vont peu à peu écarter l'aristocratie gallo-romaine, cette aristocratie qui osait leur tenir tête, au profit d'évêques issus de la noblesse franque, de la noblesse germanique. Cette noblesse germanique est attachée à ses rois par des liens étroits qui font que jamais un leude, un seigneur franc, n'osera contredire son roi en face. Par conséquent, ce sont des évêques inféodés au pouvoir royal que nous voyons apparaître. Nous en aurons un exemple patent lorsque, à 20 ans de là, le fils de Clovis, le troisième fils de Clovis, Clotaire, polygame notoire, à la mort de sa première femme légitime, je dis sa première femme légitime parce qu'il avait, jeune homme, épousé une jeune fille, la petite aristocratie, et le soir de ses noces, sa jeune épouse lui dit: « Tu sais, monseigneur, j'ai une jeune sœur et je voudrais lui trouver un bon mari, si tu pouvais lui trouver un bon mari. » Et le jour du mariage, Clotaire a vu la belle sœur en question, il s'est dit: « Flûte, elle est beaucoup plus belle que ma femme. » Et il se retourne vers sa jeune épouse et lui dit: « Ma chérie, je pense déjà un très bon mari pour ta sœur. » « Qui, mon chéri ? » « Mais moi, voyons. » Et il va s'installer dans la bigamie en épousant les deux sœurs. La seconde, quand même, il n'ose pas l'épouser à l'église, il ne trouve pas d'évêque assez complaisant pour ça. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Clotaire aura jusqu'à 8 épouses qualifiées de reines légitimes sans que personne n'ose rien dire. Et nous allons quand même, lorsque la première épouse se décide à mourir, la légitime, celle épousée à l'église, Clotaire décide de faire un nouveau mariage. Et il a une captive, une jeune princesse thuringienne qu'il a capturée encore tout enfant, qui s'appelle Radegonde. Et Radegonde, elle a le malheur d'être une rare beauté. Et elle a été convertie, elle est catholique, elle rêve de prendre le voile. Normalement, on ne devrait pas l'en empêcher, l'Église protège les vocations féminines. Et lorsque Clotaire déclare qu'il est veuf et qu'il va épouser Radegonde, il a 50 ans, elle en a 17, eh bien, elle se précipite aux pieds de l'évêque qui l'a convertie, c'est l'évêque de Noyon, Médard, vous savez, celui qui fait pleuvoir quand il pleut à la Saint-Médard. Il pleut 40 jours plus tard, à moins que Saint-Barnabé ne vienne le contrecarrer. Mais donc, ce bon Saint-Médard, il fait la pluie et le beau temps, mais il n'ose pas dire au roi que Radegonde a une vocation religieuse. Il lui dit: « Ma petite fille, il faut réfléchir, c'est un beau parti. Tu devrais te soumettre, et puis pense, ton petit frère est avec toi, et si Clotaire est de mauvaise humeur, il pourrait arriver malheur à ton petit frère. » Elle a une telle vocation, cette pauvre Radegonde, que la veille du mariage, elle sort de la propriété, elle se glisse jusqu'à la rivière voisine, elle vole un canoë, elle prend le canoë, elle pagaie comme une folle pour s'éloigner le plus possible du royaume de Clotaire. Malheureusement, elle n'a peut-être pas un sens de l'orientation. Mais quelquefois, les femmes n'ont pas vraiment le sens de l'orientation, mais je sais. Et à un moment donné, elle arrive à un embranchement entre deux rivières. Gauche, droite, seigneur, gauche, droite, gauche, gauche. Elle prend à gauche, elle commence à pagayer comme une folle. Elle devrait être la patronne des kayakistes. Et cette pauvre Radegonde, elle pagaye comme une folle pour arriver droit à Soissons où l'attend son fiancé. Elle a tourné au mauvais endroit. Et là, eh bien, elle va faire contre mauvaise fortune bon cœur, elle va épouser Clotaire, ça va être un mariage épouvantable, parce que Clotaire est une brute, elle devait être également la patronne des femmes battues. Elle va supporter ça pendant 10 ans, et puis un jour, son petit frère a grandi. Alors, Clotaire commence à le regarder. Il a épousé Radegonde parce qu'elle est belle, certes, mais il l'a épousée aussi parce que, grâce à elle, il peut réclamer le royaume de Thuringe, dont elle est l'héritière. Non, elle n'est pas l'héritière, elle a un frère. Il devient gênant, le beau-frère. Et un jour, le gentil Clotaire va assassiner son beau-frère. Et la pauvre Radegonde, qui ne s'est sacrifiée que pour sauver son frère, elle entre dans une colère épouvantable. Elle fuit le palais de Soissons, elle se précipite chez Médard, elle lui dit « Cette fois, c'est trop. Donne-moi le voile, je veux me séparer de cet homme. » « Je ne peux pas te donner le voile, voyons, voyons, c'est ton mari, c'est mon roi. » Et lui dit « Non, tu ne veux pas, au nom de la loi catholique, tu ne veux pas me démarier. » De toute façon, je ne peux pas te démarier, je n'ai pas le droit de te démarier. » Bien, si tu ne peux pas me démarier au nom du droit de l'Église, tu vas me démarier au nom du droit germanique. Tu sais très bien que le droit germanique permet à une femme de se séparer d'un homme s'il a tué l'un de ses proches parents. Clotaire a tué mon frère, je ne suis plus sa femme. Et c'est au nom du droit germanique, et non au nom du droit canonique, que Médard va se décider à donner le voile à Sainte Radegonde. Vous voyez qu'une page est en train de se tourner. Le seul qui osera encore s'opposer au roi, ce sera le dernier grand prélat gallo-romain, Saint-Germain de Paris, qui, lorsque Clotaire voudra reprendre Radegonde, qui pourtant s'est retirée dans l'abbaye Sainte-Croix de Poitiers qu'elle a fondée, seul Germain osera se mettre entre Radegonde et son mari. Eh bien oui, une page se tourne, mais il faut noter que ces grands évêques, ces Defensores Civitatis, sont venus au bon moment. Ils sont venus précisément lorsque le sort de la catholicité était menacé. Ils n'ont pas sauvé Rome, ils n'ont pas sauvé l'Empire. Ce sera... Saint Ambroise, heureusement pour lui, n'a pas vécu assez vieux pour voir l'écroulement de son rêve d'un empire romain qui aurait catholicisé le monde. Mais ce sera le crève-cœur d'un Grégoire le Grand qui, à la fin du VIe siècle, se rendra compte qu'il faut désormais liquider le rêve impérial et laisser s'épanouir les royaumes européens. Mais ces grands évêques, s'ils n'ont pas sauvé l'Empire, ils ont bel et bien sauvé l'Église.